Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Alors ce soir, on va faire un grand voyage. D'ailleurs, on n'a pas parlé à table, on va aller jusqu'à 100, 150, 170 années-lumière, millions d'années-lumière, mégaparsecs, voilà. On va, oui, donc il faudra faire attention pour le retour, qu'on ne prenne pas de retard. Une bonne nouvelle, on est quand même situé. Alors, je mettais en doute si on était là ou légèrement à gauche, mais on m'a bien confirmé, c'est vraiment là. Donc voilà, on est rassuré. Et donc je remercie Monsieur Pomaret d'être venu ce soir, qui est un ancien régional, hein, originaire de Thouars, et maintenant donc à Paris au CEA. Et vous avez été donc au Mauna Kea, à Hawaï, pour faire une découverte que vous allez exposer, qui a conduit en fait à cette découverte de ce super amas, surtout des vitesses de ces galaxies-là. Ah, j'en dis pas plus, hein, je ne vais pas interférer. À la fin de la conférence, il y aura possibilité de poser des questions, des compléments, même peut-être pendant, éventuellement. Hein. Voilà, si à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui pose problème, ben, faites des signes, avertissez, puis on fera une petite parenthèse, on développera. Oh non, pas déjà, madame. voilà, et puis à la fin de la conférence aussi, j'aurai des petites annonces au niveau des agendas pour des choses plus ou moins proches à annoncer. Voilà, donc je le dis pour essayer d'y penser tout à l'heure parce que bien souvent, des fois, la conférence est terminée et j'ai oublié mes annonces. Voilà, donc merci encore, et puis voilà, on peut commencer. Voilà,
je pense micro alors.
Ce micro ou le jaune?
Voilà. Donc merci beaucoup Eric de m'avoir invité et merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Alors je vais vous expliquer comment on est arrivé à cartographier le super amas de galaxies auquel on appartient et qui se retrouve représenté ici en arrière-plan. Alors mon travail s'inscrit dans le cadre du projet Cosmic Flows, les courants cosmiques, et c'est une collaboration, on est quatre en fait, vous nous voyez sur cette photo. Donc, on travaille avec un astrophysicien senior de l'université d'Hawaï, Brent Tully, qui est un spécialiste de la distance et de la vitesse des galaxies, qui est ici. Alors, il vient d'arriver à Paris ce soir même. Là, il arrive d'Hawaï et il vient passer une semaine pour bosser avec moi à Saclay. Et ensuite, il va à une conférence. Donc, je vais le retrouver demain. On travaille avec Hélène Courtois, qui est un peu la locomotive du projet, qui est ici, qui est de l'université de Lyon et qui est également une spécialiste des observations, en fait. Donc, quand vous disiez que j'étais allé à Mauna Kea, c'est surtout eux deux, les spécialistes d'observation, qui y sont allés. Moi, je suis plutôt le rat de laboratoire sur son ordinateur, hein, à Saclay. Et on travaille également avec un théoricien, Yehuda Hoffman, de l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, il y a trois objectifs principaux à ce projet. Donc, premièrement, c'est de manière générale, comprendre et reconstruire, cartographier les courants cosmiques, c'est-à-dire les courants de la matière, des courants qui sont d'origine gravitationnelle, qui sont dus à l'influence de sources gravitationnelles dans l'univers local. Deuxième objectif, c'est ce qu'on appelle la cosmographie de l'univers local. Donc le sens du mot cosmographie, c'est simplement la cartographie du cosmos. Et c'est d'ailleurs le point qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est ce travail de cartographie, un petit peu dans le prolongement de tout ce qu'ont fait nos ancêtres, qui ont cartographié le monde et qui ont cartographié le ciel. Et donc, on s'inscrit dans cette tradition. Et puis, alors, en termes de physique, le troisième point qui est une vieille question en suspens, qui est de comprendre l'origine de notre mouvement dans l'univers. Car nous nous déplaçons actuellement à une vitesse extraordinaire de 630 km par seconde. C'est-à-dire que notre galaxie, la Voie lactée, se déplace à cette vitesse de 630 km par seconde. Et l'origine de ce mouvement n'est pas, à l'heure actuelle, entièrement comprise. Alors, je voulais commencer cette présentation en vous montrant cette carte. Si vous suivez les derniers développements qu'il y a en astrophysique, vous avez sûrement dû voir cette carte. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, donc qui a été là enregistré par le satellite de l'ESA, Planck Surveyor. Alors, le fond diffus cosmologique, c'est la plus vieille lumière de l'univers. C'est la lumière qui a été libérée au cours du Big Bang, quand l'univers avait 300 000 ans, et quand les atomes ont commencé à se former. C'est l'époque qu'on appelle la recombinaison. Et à ce moment-là, la lumière, au lieu de rebondir sur les particules élémentaires, rebondir sur les électrons, de se diffuser sur les électrons, sur les constituants des noyaux, quand il y a eu cette recombinaison, quand il y a eu la formation des atomes, alors la lumière est partie en ligne droite. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans cette carte, c'est cette lumière qui a été émise quand l'univers avait 300 000 ans et qui a donc voyagé en ligne droite depuis. Et cette carte, elle nous montre des fluctuations. Vous voyez plein de petites des zones rouges et des zones bleues. Les zones rouges, ce sont des zones chaudes qui marquent la présence de zones très surdenses, des zones qui sont plus denses que la moyenne dans l'univers. Tandis que ces zones bleutées, bleu sombre, sont des zones sous-denses. Et donc, ce qu'on voit dans cette carte, ce sont en fait, en quelque sorte, les graines qui ont donné les graines initiales, qui ont donné lieu à ce qui allait devenir, à ce que deviendraient les grandes structures aujourd'hui, et en particulier les superamas de galaxies. Donc, on peut imaginer que si vous voyez ce point ici rouge surdense, va certainement donner lieu au cours de l'évolution de l'univers, donc entre les 300 000 ans de l'époque où date cette carte et les 13,7 milliards d'années d'aujourd'hui, va donner lieu à la création d'une superstructure, probablement un super amas de galaxies ou même quelque chose de beaucoup plus grand en l'occurrence. Et alors, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette carte, elle est très importante pour les cosmologistes. Les cosmologistes l'analysent avec un raffinement extrême pour en déduire les paramètres du modèle standard de la cosmologie. Donc, le modèle standard de la cosmologie, c'est une description mathématique du Big Bang avec un certain nombre de paramètres, et un grand nombre de paramètres sont déduits de l'analyse de cette carte. Alors, ce qui est tout à fait ironique, c'est que pour obtenir cette carte, il faut soustraire d'abord cette autre carte qui est une composante du rayonnement que l'on appelle le dipôle. C'est la composante dipolaire du CMB, et qui est en fait qui est d'un ordre de grandeur environ 10 000 fois plus grand que les petites fluctuations qu'on voit sur cette carte. Et cette carte, en fait, elle traduit ce mouvement de 630 km par seconde dont je vous ai parlé. Donc simplement, vous voyez qu'on a cette région très rouge, en fait, c'est la direction vers laquelle on est en train de foncer à 630 km par seconde. Et cette région du ciel, c'est la région dont on s'éloigne. Et donc, les photons du Cosmic Microwave Background acquièrent de l'énergie relative à cause de ce mouvement. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que pour étudier le CMB et donc faire de la cosmologie avec, on soustrait ce dipôle dont on ne comprend pas l'origine. Et donc, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 80, ce dipôle, c'est-à-dire ce mouvement dans l'univers. On peut raisonnablement penser qu'il est dû à la façon dont les grandes structures sont distribuées autour de nous. Et la source de ce mouvement, on l'a appelé, pour faire simple, le grand attracteur. Voilà. Et donc, c'est un des grands enjeux de mon projet, c'est de comprendre le grand attracteur. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui à travers ma présentation, car le grand attracteur, vous verrez, est une des composantes essentielles du superamas auquel appartient du superamas de galaxie auquel appartient la Voie lactée. Alors, dans le projet Cosmic Flows, il y a trois composantes, et parmi l'équipe des quatre que je vous ai présentée, on a chacun notre spécialité là-dedans. Alors, la première chose très importante, ce sont de faire des mesures de vitesse particulière des galaxies. Alors, vous savez que l'univers est en expansion, et une des manifestations de cette expansion, c'est la loi de Hubble. Et la loi de Hubble, elle dit que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse qui est proportionnelle à leur distance. Donc, si vous prenez une paire de galaxies à un couple de deux galaxies, leur vitesse d'éloignement, leur vitesse de récession sera simplement proportionnelle à leur distance. Et ça se traduit par la loi de Hubble. La vitesse de récession, donc la vitesse d'éloignement, c'est égal à la distance multipliée par la constante de Hubble. Alors, la constante de Hubble, c'est sujet à polémique. Depuis toujours, depuis qu'on a commencé à en parler, il y a eu des mesures qui sont en désaccord. Dans les années 80, je pense qu'il y avait des groupes qui l'a proposé à 50 km par seconde par mégaparsec. Il y avait d'autres groupes qui l'a proposé à 100 km par seconde par mégaparsec. Moi, personnellement, je travaille avec Brent Tully, qui est un des grands spécialistes du domaine, et qui, depuis sa thèse, c'est-à-dire depuis qu'il avait 30 ans, donc c'était il y a 40 ans, Ils proposaient déjà 75 km par seconde par mégaparsec. Et dans les données qu'on utilise actuellement, ils sont toujours en train d'analyser et de déterminer cette constante de Hubble. Ils en sont toujours là à 75 km par seconde par mégaparsec. Alors, donc, il faut bien saisir qu'il y a cette loi de Hubble, mais que par-dessus cette loi de Hubble, il y a des déviations. Donc, si une galaxie, alors une galaxie, elle est prise dans ce flot de Hubble qui l'a fait s'éloigner des autres galaxies, donc à une vitesse qui est proportionnelle à la distance qui la sépare des autres galaxies, mais à cause de toute la matière qui est autour de cette galaxie, donc si par exemple la galaxie se trouve près d'un amas de galaxies ou d'un superamas, elle va être attirée par cet amas ou par ce superamas, et donc il y aura des déviations. Et c'est ce qu'on mesure dans le projet. On doit mesurer ces vitesses qu'on appelle des vitesses particulières. Donc d'abord, on soustrait l'expansion et on mesure la vitesse particulière de la galaxie. Et c'est une mesure qui est le long de la ligne de visée. C'est-à-dire que vous regardez la galaxie avec un télescope et vous savez si cette galaxie s'approche ou s'éloigne de nous. Donc c'est ce qu'on appelle la composante radiale d'une vitesse qu'on est en train de mesurer. Alors ensuite, en utilisant ces données, on reconstruit en trois dimensions le champ de vitesse et le champ de densité qui est à l'origine de ces vitesses en utilisant un algorithme qui s'appelle un filtre de Wiener et sur lequel je vais revenir. Et la troisième composante du projet, ça c'est ma spécialité, c'est la cosmographie. C'est la visualisation en trois dimensions de ce champ de vitesse, de ce champ de densité pour en déduire une cartographie des structures. Et alors dans tout ça, on fait une cartographie en fait, des structures de l'univers qui inclut à la fois la matière lumineuse, donc les galaxies composées d'étoiles, et aussi la mystérieuse matière noire hein, qui fait partie des galaxies et dont on ne connaît pas exactement la nature. Mais elle est là, elle sera forcément prise en compte au moment de la mesure des vitesses particulières, elle sera prise en compte au moment de la reconstruction du champ de vitesse. Et elle sera donc prise en compte à la fin dans les cartes, par exemple les cartes qu'on voit ici en arrière-plan. Alors, pour les observations, on a deux composantes. On a un programme d'observation en radio, en utilisant des grands radiotélescopes, et notamment cet extraordinaire instrument qui est le télescope de Green Bank aux États-Unis en Virginie occidentale. Alors, pour la petite histoire, ce télescope est installé dans le comté de Pocahontas, la célèbre indienne qui fait partie de l'histoire des Indiens d'Amérique. Et ce télescope mesure 110 mètres de diamètre. Donc, on pourrait y installer un terrain de football à l'intérieur de sa parabole. Et c'est le plus grand radiotélescope du monde qui soit totalement orientable et qui puisse viser dans toutes les directions du ciel. Alors, j'ai eu la chance d'y aller. On a eu une réunion un jour et on nous a fait visiter le télescope et j'ai pu monter tout là-haut. C'est vraiment un appareil fabuleux. On utilise, ça c'est pour observer le ciel du nord. Pour observer le ciel du sud, on utilise essentiellement le radiotélescope de Parkes en Australie, là où Hélène Courtois a passé plusieurs séjours, notamment après sa thèse. On utilise aussi des données d'archives, notamment d'Arecibo, des précurseurs de ce télescope, Green Bank, GB300, GB140. On utilise des données aussi du radiotélescope allemand, Effelsberg, et ainsi que quelques données de quelques spectres de Nansei. Alors, dans cette problématique-là de la mesure de la distance et de la vitesse des galaxies, on a besoin de faire deux mesures, en fait. On a besoin de faire une mesure en radio pour mesurer un spectre des galaxies. Et alors, on utilise plusieurs techniques, mais c'est essentiellement la relation de Tully-Fisher, où on fait une corrélation entre la vitesse de rotation de la galaxie. Donc ça, on obtient ça avec les observations radio, et la luminosité. Et ça, on a besoin de faire de la photométrie. Donc on utilise essentiellement le télescope de l'Université d'Hawaï qui se trouve au sommet du Mauna Kea, sur la grande île d'Hawaï. Et on utilise des données aussi issues de plusieurs télescopes. Et pour certaines galaxies proches dans notre univers très proche, on a eu un programme observationnel sur le télescope spatial Hubble. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer. C'est un truc que moi-même, je ne comprends pas totalement et qui est donc... le bébé de Yehuda Hoffman, le théoricien qui travaille avec nous. Donc ça, c'est vraiment de l'astrophysique théorique qui est mise en jeu ici. Alors, donc vous voyez sur cette image, sur cette carte, la Voie lactée se trouve ici, là, ce point blanc. Et vous avez des mesures. Alors, vous avez quelques centaines de galaxies qui sont représentées ici par ces points. Et chacun de ces points est équipé d'une flèche, d'un vecteur, qui représente la mesure de la vitesse particulière. Donc quand elles sont bleues, ces flèches, ça veut dire que ça pointe vers nous. Et quand elles sont rouges, comme celle-là, ça veut dire qu'elles s'éloignent de nous. Donc elles sont en train de s'éloigner de nous à cause des sources. Elles s'éloignent ou elles s'approchent de nous en fonction des sources de matière qui se trouvent autour d'elles. Alors ce filtre de Wiener prend en hypothèse, comme pour hypothèse, alors dans un cadre mathématique qu'on appelle les statistiques bayésiennes, il utilise le modèle standard de la cosmologie pour spécifier que les structures ont telles caractéristiques. Donc c'est les dimensions de ces structures que vous voyez ici. Donc il y a une dimension moyenne, une dispersion sur les tailles possibles de ces structures. Donc ça, c'est pris en compte par ce filtre de Wiener. Et donc, avec ces hypothèses donc, du modèle standard de la cosmologie et ces mesures de vitesse, cet algorithme reconstruit en 3D le champ de vitesse. Et ce sont ces lignes en blanc que vous voyez ici, qu'on appelle des lignes de courant. Alors si vous voyez par exemple cette galaxie, elle a une composante de la vitesse comme ça vers nous, et on voit que dans le résultat reconstruit, on voit qu'en fait il y avait une composante tangentielle qui la faisait d'abord partir dans cette direction, peut-être attirée par ce super amas de galaxies, et puis changer de direction pour repartir vers cet amas. Et donc il peut arriver, l'algorithme traite le grand nombre de cas comme ça qui peuvent se présenter, et finalement nous présente la situation la plus probable. Et donc, on obtient différents produits. On obtient un champ de densité. Donc, c'est l'image qu'on voit qui est colorée, qui va du bleu vers le vert avec des rouges. Le champ de densité. On obtient un champ de un potentiel gravitationnel. On obtient des choses très intéressantes aussi, comme le tenseur de cisaillement, qui vous dit que, en fait, on peut procéder par analogie avec un fluide. Les courants cosmiques sont en quelque sorte des fluides, avec des phénomènes de compression et des phénomènes de dilatation qui nous renseignent sur ce qui se passe, sur les endroits où il y a des phénomènes, des surdensités qui se sont établies. Et donc, on analyse toutes ces données pour obtenir ce genre de carte de l'univers. Et alors, moi, ma spécialité dans tout ça, c'est notamment de produire ce type de carte. J'ai développé donc un logiciel de visualisation qui, à l'origine, était fait pour visualiser des simulations numériques, qui est un grand sujet à la mode, qui est un grand outil de travail actuellement, disons, en astrophysique, dans plein de domaines. Et curieusement, donc, cet outil que j'ai développé, finalement, j'ai quasiment abandonné ce champ initial des simulations numériques suite à une rencontre avec Brent Tully, qui s'était rendu compte que mon logiciel pouvait être utilisé pour visualiser les grandes structures. Donc il s'agit simplement d'une interface graphique qui permet, par exemple, de représenter, d'étudier, par exemple, ici un champ de densité. Donc vous voyez un histogramme et vous cliquez, par exemple, sur une valeur qui vous intéresse. Et dans la scène principale du logiciel, vous avez les régions de l'univers qui correspondent à cette densité. Donc là, par exemple, vous avez les visualisations des grandes structures sur lesquelles je vais revenir dans la suite de la présentation. Alors, de ce projet, le premier résultat qu'on a eu, c'est une publication en 2013 sur la cosmographie de l'univers local, où on a présenté 23 cartes de l'univers, donc dans un volume de dimension 200 mégaparsecs, c'est-à-dire 600 millions d'années-lumière. Et alors, une de mes spécialités aussi, c'est non seulement la production de cartes traditionnelles sous forme d'images, mais aussi de vidéos. Donc, de vidéos qui permettent, par le jeu des mouvements, des changements de point de vue, par l'utilisation des transparences entre différents objets, des polygones, des lignes de courant, permettent de comparer et d'étudier la cosmographie. Donc, dans cette publication, on a donc non seulement présenté ces 23 cartes de l'univers local, cette vidéo, et on a exploré donc les courants cosmiques, on a cartographié ces courants cosmiques en utilisant un catalogue de vitesse particulière de galaxies de seulement 1800 galaxies. Donc, c'est un très petit nombre de galaxies, en fait. Si vous vous intéressez à l'astrophysique extragalactique, vous vous rendrez compte qu'il existe des grands catalogues avec des centaines de milliers, des millions ou des dizaines de millions de galaxies qui sont utilisés pour reconstruire les grandes structures, mais avec toutes sortes de handicaps et de défauts. Et certains défauts qu'on a réussi à combattre avec notre technique, je vais vous présenter ça. Alors, maintenant, je vais commencer à vous présenter la cosmographie de l'univers local, comment sont hiérarchisées les structures autour de nous. Alors, la première chose, c'est qu'on fait donc partie d'une galaxie spirale géante, la Voie lactée, qui contient environ 1000 milliards d'étoiles. Alors, le système solaire et la Terre se trouvent dans un endroit qui est assez éloigné du centre, sur un des bras qu'on appelle le bras d'Orion. Alors ça, c'est pas le sujet de mes recherches, mais en ce moment, c'est tout un sujet, notamment avec le satellite Gaïa, qui est en train de cartographier la région proche de la Voie lactée. Mais notre Voie lactée est une grande inconnue. On ne sait pas du tout. On a beaucoup de mal à observer ce qui se passe dans ces régions centrales, puisqu'en fait, la Voie lactée est composée en grande partie de nuages de poussière qui nous cachent la lumière qui est émise non seulement dans son plan, mais qui peut aussi nous provenir de derrière son plan principal. Alors, dans cette image, vous voyez que j'ai représenté ici par des cercles concentriques un plan qui s'appelle l'équateur supergalactique et qui sera présent dans les slides qui vont suivre et dont je vous expliquerai la signification sous peu. Alors, les premiers acteurs extragalactiques de notre cosmographie, ce sont ces deux petites galaxies qui sont les nuages de Magellan, donc le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan, qui sont deux galaxies naines qui contiennent environ chacune 100 000 étoiles et qui sont en orbite quasi-circulaire autour de notre Voie lactée. Alors, j'ai commencé à vous expliquer que notre Voie lactée posait un problème, en fait. Elle nous pose un problème puisqu'elle est constituée de beaucoup de nuages de poussière qui nous cachent donc la lumière qui pourrait provenir du plan qui contient la Voie lactée. Et ça, en voici une très belle représentation. Donc, c'est une photo qui est une photo amateur, disons, astronome amateur, qui a été prise à Mauna Kea, justement, là même où on prend les données, et qui nous montre en fait ces nuages de poussière. Alors, si vous, l'observateur, vous êtes placé ici, à cause de ces nuages de poussière, il va y avoir une sorte de coin en trois dimensions, comme ça, qui va s'enfoncer dans tout l'univers jusqu'à l'infini, et à l'intérieur duquel vous allez avoir aucune information directe. Tandis que sur les deux hémisphères, là, nord et sud, de la Voie lactée, vous allez pouvoir mesurer tranquillement la position et la vitesse des galaxies. Et donc, notre propre galaxie donc, est à l'origine de ce phénomène qu'on appelle la zone of avoidance. C'est la zone d'observation, c'est la zone d'obscuration. Alors, si vous prenez un immense cube qui couvre 1,4 milliard d'années, là, comme j'ai fait ici, chaque point représente une galaxie mesurée. Et là, on est en train de regarder un catalogue dont je vous parlais, justement, avec des millions de galaxies. Et là, vous vous rendez compte du problème. On a tout un coin, comme ça, qui est enfoncé dans ce cube et où on n'aura jamais de mesure directe. Et donc, on est dans une impasse, dans une impossibilité de faire de la cosmographie dans cette région de l'univers. Et là, dans la problématique qui nous réunit ce soir, qui est de déterminer, en fait, à quel super... Alors là, vous voyez des surdensités un peu partout. Donc, par exemple, ici, là, vous avez Hercule, le super amas d'Hercule. Donc, on voit sans souci qu'il y a une région qu'on voudrait appeler un super amas de galaxies. Mais nous, au milieu, quelles sont les limites de notre super amas? Sachant qu'on est gêné, là, par exemple, on ne sait pas ce qui se passe ici. Donc, on est immergé dans quelque chose, et ça, c'est une difficulté. Pour le connaître, cette chose, ce super amas de galaxies. Et la technique que je vais vous présenter ce soir apporte des réponses là-dessus. Alors, donc, repartons de cette image. Là, on va reculer. Donc, la Voie lactée... faut pas que je me trompe de bouton. Voilà, la Voie lactée se trouve ici. On a les deux nuages de Magellan qui sont là. On a encore ces cercles concentriques qui sont là pour marquer le plan de l'équateur supergalactique, dont je vais vous donner la définition un peu après. Et là, on voit apparaître l'autre grand acteur de notre univers local, enfin, disons, la grande actrice de notre univers local, qui est la galaxie d'Andromède, ainsi qu'une autre galaxie légèrement moins importante, qui est Messier 33. Et on voit également sur cette carte que j'ai représentée par ces marqueurs. Ici, ils sont à peine visibles, donc j'ai utilisé des marqueurs, qui sont en fait toute une cohorte de galaxies naines qui sont en orbite soit autour d'Andromède, soit autour de la Voie lactée. Donc chacune, c'est typiquement des dwarf galaxies avec une centaine de milliers d'étoiles. Et leur étude est un sujet très très à la mode en ce moment, parce qu'on s'est rendu compte que ces galaxies naines orbitaient dans certains plans, dans des plans préférentiels, et on a du mal à expliquer d'où viennent ces plans. Ils ne correspondent pas à des choses auxquelles on s'attendrait, par exemple... qu'elles soient dans le même plan que la grande spirale autour duquel elles orbitent. Les plans viennent d'autre chose. Il semblerait que ces plans proviennent justement des courants cosmiques qui existent dans le milieu environnant. Alors, ça donc, c'est une vue de la galaxie d'Andromède et de M33. Si on s'approche un peu de la galaxie d'Andromède, donc c'est un objet, je ne sais pas qui parmi vous a eu l'occasion de la voir, par exemple avec une paire de jumelles ou dans différentes possibilités offertes par les clubs astronomes amateurs. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque quand vous la regardez, vous contemplez en fait 1000 milliards d'étoiles, et quand vous vous rendez compte que chaque étoile est potentiellement entourée de peut-être de 10 planètes, avec des probabilités non négligeables d'abriter de la vie, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux à observer. Et vous voyez aussi ces galaxies naines dont je vous ai parlé. Alors ça, ce sont donc ce sont les acteurs majeurs de notre univers local dans ce qu'on appelle le groupe local. Alors maintenant, on continue à reculer. Donc vous avez deux vues en fait qui sont complémentaires. Alors et où j'ai fait apparaître le système de coordonnées SGX, SGY, SGZ qui correspondent au système de coordonnées supergalactiques, qui a été proposé par Gérard de Vaucouleurs, un astrophysicien français, en 1991. Et donc, les lignes concentriques que j'avais montrées dans mes images précédentes sont représentées ici. Et elles correspondent simplement au plan SGZ égale 0. Alors, ici, sur ces deux images, alors, ici, j'ai une vue en perspective, le long, disons, de l'axe Y. Et ici, on a une vue, alors, vue du dessus. Donc vous voyez qu'il y a X et Y, et on a une vue isométrique, tandis que là j'ai utilisé la perspective. Alors, vous devriez être très surpris de ce que vous voyez, parce qu'on représente les positions ici des galaxies sur un système d'axes en kilomètres par seconde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a ce problème de la constante de Hubble dont je vous ai parlé, qui est sujet à polémique, et que nous, ce qu'on mesure, en fait, ce sont les vitesses de récession des galaxies, et que si on voulait revenir à des distances, on devrait diviser par la constante de Hubble, mais comme les groupes ne sont pas d'accord là-dessus, on estime qu'il est plus raisonnable de rester en kilomètres par seconde. Donc vous avez typiquement là des distances ici 450 km par seconde. Si vous voulez revenir à des vraies distances avec des unités dont on a l'habitude, il suffit de diviser par 75 km par seconde par mégaparsec pour obtenir des mégaparsecs. Donc là, ce cube qui va de moins 450 à 450 km par seconde, ça va en fait de moins 6 à plus 6 mégaparsecs. Voilà. Et en fait, les cartes que je vous montre, elles sont destinées à la communauté scientifique, et c'est le système qu'on préfère utiliser, mais qui peut sembler déroutant quand on n'a pas l'habitude. Alors ce qu'on voit là, en termes de cosmographie, on voit déjà une chose très intéressante, c'est que sur cette carte, donc chaque petit point représente une galaxie, et qu'il semble que ces galaxies sont installés sur un plan. Et ce plan, alors on utilise un mot affreux en anglais qu'on n'a pas réussi à traduire en français de manière agréable, ça s'appelle le local sheet, ça veut dire la plaque locale. En fait, les galaxies sont distribuées sur une plaque très fine. Et cette plaque fine, en fait, délimite un vide qu'on appelle le local void, qui a été découvert par Brent Tully, justement dans notre collaborateur américain, dans les années 80. Et ce vide qui est typique en fait de la structuration de l'univers. Donc l'univers se structure en régions sous-denses, en régions surdenses. Donc les régions sous-denses, ce sont les vides. Les régions surdenses, ce sont typiquement les amas de galaxies et les super-amas de galaxies. Et ce vide est en expansion en fait. Il est en train de s'agrandir. Il est en train de se vider et il crée des courants de matière qui s'éloignent de son centre et qui nous poussent en fait, qui poussent le groupe local auquel on appartient dans cette direction, à une vitesse de 259 km par seconde. Voilà. Et là, vous avez la vue du dessus. Donc, si vous regardiez au-dessus de ce cube dans cette direction, vous reconnaîtriez donc la Voie lactée, Andromède, qui constituent des groupes avec leur cortège de galaxies satellites. Et cette situation se reproduit avec d'autres galaxies spirales, comme Centaurus A ou M81, donc qui sont des grandes galaxies, typiquement des galaxies spirales avec 1000 milliards d'étoiles, entourées chacune par un essaim de petites galaxies naines. Voilà. Alors, maintenant, vous pourriez considérer cette carte. Donc, on a SGX, SGY, on a Andromède et Milky Way qui sont là. Alors, maintenant, on va reculer. Donc, on retrouve X, Y. Donc les deux groupes de la Voie lactée et d'Andromède sont ici. On a beaucoup reculé. Et maintenant, on voit apparaître une grande structure de notre univers local, qui est l'amas de la Vierge, en fait. C'est le Virgo Cluster, qui est un amas de galaxies, d'environ 2000 galaxies, qui se trouvent dans la constellation de la Vierge. Je vais vous en montrer une représentation astronomique. Donc, cet amas, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça occupe une région, ça occupe un diamètre angulaire dans le ciel qui est vraiment très impressionnant. Cette image fait 3 degrés par 5 degrés. Alors, si vous pensez à la Lune fait typiquement 1 degré. Donc, vous pourriez faire passer la Lune, elle passerait devant. Elle ne réussirait pas du tout à cacher l'amas de la Vierge tellement il est grand. Donc, cet amas de galaxies contient environ 2000 galaxies. Et au centre se trouve une galaxie dominante qui est M87, qui est une galaxie elliptique supergéante, donc avec, je crois que c'est quelque chose comme 5000 milliards d'étoiles à l'intérieur de cette galaxie ici. Et donc avec 2000 galaxies autour qui sont en train d'orbiter à l'intérieur d'une région de l'univers qui est approximativement sphérique. Alors là, j'ai un collègue qui a réalisé cette vue extraordinaire, ce photomontage extraordinaire. Donc, c'est Jean-Charles Cuyandre. Il a été en poste pendant des années au CFHT, le télescope Canada-France-Hawaï, pour lequel mon institut, le commissariat à l'énergie atomique, a construit la caméra qui se trouve au plan focal. Et donc, Jean-Charles, maintenant, est basé à Saclay. Et donc, c'est un spécialiste de l'amas de la Vierge. Et donc, il a fait ce photomontage qui est absolument extraordinaire. Il faut y penser, quoi, quand on regarde le ciel, il y a quand même ce monstre qui est à côté de nous et dont on ne réalise pas la présence et qui occupe une grande partie du ciel. Oui, on ne voit rien du tout à l'œil nu. Oui. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience des structures de notre univers local qui est vraiment qui est à faire. Hein. C'est très, très intéressant. Alors, je reprends la même carte que je vous ai montrée. Et là, je voulais discuter avec vous d'une notion qui est très intéressante, qui est ce qu'on appelle la zéro énergie surface, qui est la surface de vitesse, de vélocité nulle ou d'énergie nulle. Alors, cette surface, c'est quelque chose de conceptuel. Ça entoure, vous pouvez entourer chaque structure d'une telle surface. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à calculer. Et là, j'en ai donné une représentation simplifiée à l'ordre zéro. Donc, cette surface, en fait, vous dit que vous indique quels sont les lieux où il y a équilibre entre l'expansion de l'univers et la gravitation. Donc, par exemple, si vous prenez ces deux galaxies ici, là, les deux qui sont de part et d'autre de la surface, de la zéro énergie surface de Virgo. Alors, toutes les deux, chacune d'elles s'éloigne de l'amas de la Vierge à cause de l'expansion de l'univers, mais il y en a une des deux qui ressent plus fortement l'influence gravitationnelle et qui, au final, sera capturée par l'amas de la Vierge. C'est-à-dire que l'expansion n'est pas assez importante pour battre l'attraction gravitationnelle de l'amas. Et donc, elle finira par collapser et à tomber et à faire partie de l'amas de la Vierge. Elle orbitera autour de cette galaxie elliptique supergéante M87, tandis que sa copine, juste à côté, est juste en dehors de la surface d'influence, et elle finira sa vie probablement toute seule, elle est très isolée, celle-là, et dans l'avenir de l'univers, elle ne tombera ni sur cet amas ici, qui est le petit amas de la Grande Ourse, et restera probablement isolée. Et alors, pour nous, pour la Voie lactée, la zéro énergie surface est toute petite, en fait, et elle inclut simplement la Voie lactée et Andromède et les petites galaxies naines qui sont en orbite autour. Et là, on peut commencer à questionner la notion historique de superamas de galaxies, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un superamas de galaxies ? Historiquement, les gens ont proposé qu'on faisait partie du superamas de la Vierge. Et donc, le superamas de la Vierge, c'était quoi ? C'était l'amas de la Vierge. Et puis ces groupes, ces petits amas qu'il y avait autour, hein, et puis nous finalement. Mais en fait non, on ne tombera, Virgo ne nous attirera jamais, on sera... Alors il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs, c'est que, j'ai oublié de vous le dire dans la slide précédente, hein, c'est que Virgo donc nous attire, nous contribue à notre mouvement, avec une vitesse de l'ordre de 185 km par seconde. C'est-à-dire qu'on est attiré et qu'on se dirige vers Virgo à 185 km par seconde. Mais malheureusement pour Virgo, s'éloigne de nous à 1200 km par seconde. Car en fait, ce système de coordonnées, là, il est très intéressant. Il vous permet d'obtenir la position, mais il vous dit aussi la vitesse de récession. Donc l'amas de la Vierge s'éloigne de nous à 1200 km par seconde. Donc il ne nous attrapera pas. Voilà. Et cette image vous donne en quelque sorte la représentation de l'avenir de l'univers qui est finalement assez pessimiste, hein, qui est assez tristounette, hein, puisque les structures vont se regrouper dans des zones hyper denses, hein, et entre elles, il n'y aura plus rien, il y aura des grandes régions vides. Hein, et puis on retombe finalement sur la description qu'avait fait, vous savez, le philosophe Kant. Il était astronome aussi, et il avait proposé la notion d'univers-île pour décrire les galaxies. Et donc pour lui, il avait conscience que les galaxies étaient des sortes d'îles comme ça, isolées dans l'univers. Et en fait, on va plus loin que Kant, puisque les galaxies elles-mêmes vont se regrouper, fusionner et construire des objets qui seront eux-mêmes de plus en plus denses et de plus en plus isolés les uns des autres. Donc voilà. Alors, donc maintenant, on va continuer à reculer. Donc, rappelez-vous, on a le groupe local ici avec la Voie lactée, l'amas de la Vierge, on a X, Y. Et là, on arrive sur un nouvel ensemble de cartes. Alors, prenons celle-ci, on a X, Y. Alors, le 0 se trouve décalé, il est ici. Donc, la Voie lactée se trouve ici. Et là, on a l'amas de la Vierge. Donc, dans la vue précédente, on considérait un petit carré qui se trouve au centre. Alors, en ayant reculé comme ça, on voit apparaître un des autres acteurs essentiels de l'univers local et qui joue un rôle important dans notre mouvement dans l'univers, qui est l'amas du Centaure. Donc, l'amas du Centaure semble être un nœud de ce qu'on appelle le Cosmic Web. Alors, le Cosmic Web, en fait, c'est la description fondamentale de la structure de l'univers. Donc, quand vous vous rappelez de l'image que j'ai montrée au début des fluctuations du fond diffus cosmologique, avec des régions surdenses et des régions sous-denses, les simulations nous montrent que si on part de cet état initial, les choses évolueront vers un système où il y aura des surdensités qui seront connectées entre elles par des filaments. Donc les surdensités, on appelle ça les nœuds en fait, d'une toile. Alors que vous pouvez, par analogie, vous représenter le cerveau, le cerveau humain, avec des neurones qui sont connectés, qui connectent des cellules entre elles. Et en fait, l'univers a cette même structure. Donc, avec des nœuds sur lesquels convergent des filaments, et les filaments séparent entre eux des vides. Il y a des zones vides entre les filaments. Et c'est exactement ce qu'on voit dans notre univers local. L'amas du Centaure semble être alimenté par cinq filaments qui convergent donc, dans cette région. Donc, il y a le filament de Virgo. Dessous, il y a le filament d'Antlia. Donc, ici, là, vous aviez X, Y. Là, on passe à X, Z. Donc, là, vous voyez le filament de Virgo, le filament d'Antlia, le filament de Fornax, le filament de Norma Pavo-Indus, et un filament qu'on a appelé le Soufern Supercluster, et dont vous voyez ici la représentation en perspective. Alors, dans la vidéo qu'on a produite pour cet article, on peut voir des représentations en mouvement, en rotation, qui permettent de mieux appréhender toutes ces structures. Alors, si on continue à reculer, donc, on a la Voie lactée, l'amas de la Vierge, l'amas du Centaure. On recule encore un cran dans les échelles de distance. Donc, on a toujours X, Y. La Voie lactée se trouve quasiment disparue, on la voit quasiment plus en tant que groupe, que surdensité. Donc elle est ici, là on a l'amas de la Vierge, l'amas du Centaure se trouve ici, et on voit apparaître d'autres grandes structures, par exemple l'amas Coma, et ici la chaîne d'amas de Persée-Poisson. Et là, ici vous avez aussi le pan indien, Pavo-Indus, le filament du pan indien qu'on voyait ici, voilà. Et là, on peut commencer sur ces cartes à essayer d'identifier ce qui pourrait être un superamas de galaxies. Alors ces cartes ont des problèmes. Elles ont la zone of avoidance là, dans laquelle on a peu de mesures ou pas du tout. Et ces cartes aussi souffrent du fait que donc chaque point représente une galaxie, Mais plus la distance est grande, et moins on a de mesures, moins il y a de galaxies qui sont mesurées, parce qu'elles sont plus difficiles, elles sont plus éloignées, et à luminosité donnée, leur magnitude a tendance à tendre vers zéro. Donc plus on s'éloigne, moins on voit de structures. Pourtant, les structures sont là, mais on les voit de moins en moins bien. Et donc, peut-être que ces structures ici sont plus importantes que celles qu'on voit au centre. Et finalement, on a des biais observationnels qui sont représentés dans ce type de carte. Alors, ça c'est une image de l'amas de Persée qui se trouve ici, donc qui est un peu l'équivalent de l'amas de la Vierge, typique avec un millier de galaxies, disons. Alors, si on continue... Maintenant, je passe à une vue en trois dimensions qui couvre la même surface que cette carte, mais on est passé à une vue en perspective et donc à une vue qui couvre un cube qui va de moins 8000 à plus 8000 km par seconde dans cette échelle de distance, en fait. Et où on a compensé, on a appliqué une fonction de correction pour tenir compte du fait qu'on a du mal à détecter les galaxies qui sont lointaines. Donc on a en quelque sorte boosté la représentation à grande distance. Et là, dans cette représentation, notre groupe local, donc avec la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, représente ce minuscule blob qui se trouve au centre, qui est totalement insignifiant, à côté duquel se trouve une surdensité qui inclut notamment l'amas de la Vierge, l'amas du Centaure. De l'autre côté, vous avez ce filament là dont j'ai parlé qui s'appelle Pavot Indus. Et ces structures, en fait, qu'on aurait du mal en fait, à encercler, à délimiter par une frontière et à la séparer des autres, semblent relativement insignifiantes, notamment par rapport à côté d'une grande structure telle que celle-ci, qu'on appelle le Grand Mur, le Great Wall. Et donc, dans cette vue, on souffre de cette zone of avoidance en fait, qui coupe ici l'univers en deux. Qui crée une sorte de triangle comme ça à l'intérieur duquel on n'a pas de mesure. Et on verra plus tard que dans notre identification de l'ANIAKA, notre superamas de galaxie, ça inclut non seulement ça, mais ce filament pour avoir une sorte de structure comme ça qui se trouve au centre de ce cube. Alors si on fait une rotation maintenant et qu'on regarde d'en haut, en s'inclinant légèrement, on obtient cette vue. Avec le groupe local, donc c'est cette région à laquelle on appartient, qui est totalement insignifiante au centre du cube de données, avec ce qu'on a appelé historiquement ici le superamas local, avec l'amas de la Vierge qui est ici, et cette gigantesque structure ici du Grand Mur, qui contient l'amas de Coma et l'amas d'Hercule ici. Voilà. Alors, un des grands apports de cette publication, ça a été de présenter des cartes des courants cosmiques. Donc là, vraiment, je vous montre ce qui fait vraiment la teneur de notre projet, qui est la reconstruction des courants cosmiques. Alors, sur cette carte, on retrouve la Voie lactée, qui se trouve ici, l'amas de la Vierge et l'amas du Centaure, qui se trouve dans cette région. Alors, cette image colorée que vous voyez en arrière-plan, en fait, elle correspond au plan supergalactique qui avait été identifié par Gérard de Vaucouleur, qui se trouve donc à une coordonnée SGZ égale 0 sur toutes les autres cartes que je vous ai présentées avant. Et alors, ce qu'on représente dans cette carte, ce sont d'une part les galaxies individuelles qui viennent d'un catalogue qui contient la position d'un grand nombre de galaxies et qu'on utilise ici comme référence, mais qui ne contribuent pas vraiment à la reconstruction des courants cosmiques. Alors, les courants cosmiques, ce sont ces lignes de courants qui partent de régions sous-denses et qui convergent, qui suivent des filaments et qui conduisent en fait à ce qu'on appelle un attracteur. En l'occurrence, ici, on reconstruit le grand attracteur dont je vous ai parlé au début et qui contribue de manière significative à notre mouvement. Donc, je vous rappelle que notre mouvement dans l'univers, c'est 630 km par seconde. Ici, on a reconstruit un mouvement qui est de l'ordre de 455 km par seconde, qui n'explique donc pas tout, mais qui nous apporte des informations intéressantes, notamment sur la structure. Alors, à partir de ces courants, donc vous voyez qu'ils suivent des filaments, qui évitent des zones vides et qui convergent sur un attracteur, on peut reconstruire le champ de densité qui est à l'origine de ces courants cosmiques. Et c'est donc ce qu'on voit avec cette carte colorée en arrière-plan, avec des zones qui vont du noir au bleu sombre, qui sont donc des vides, les zones qui vont du vert, ensuite du vert, les jaunes, le vert et le rouge, qui correspondent aux régions les plus denses. Et c'est donc ces cartographies, c'est ce qu'on appelle la cosmographie, c'est ce qu'on propose à la communauté scientifique, disons des astronomes extragalactiques, par le biais donc de ces publications. Alors, si on regarde plus précisément le plan supergalactique, donc la Voie lactée est ici, on voit que la Voie lactée est sur un chemin, en fait, une ligne de courant qui est d'abord attirée par l'amas de la Vierge, mais qui s'écarte pour s'orienter sur le grand attracteur. On a plusieurs choses intéressantes dans cette carte. On voit que les lignes de courant se compressent, que le flux se compresse pour suivre une sorte de filament. Et c'est bien ce que j'avais présenté avant dans les cartes comme étant le filament de Virgo, qui est un des filaments en fait, du Cosmic Web, avec des filaments qui se dirigent sur ce nœud, qui est le grand attracteur. Alors si maintenant on fait une coupe qui va permettre de voir ce plan-là, à SGY égale 1200 km par seconde, on obtient cette vue. Donc la Voie lactée se trouve ici, l'amas de la Vierge. On voit qu'on a un filament comme ça qui se dirige vers le grand attracteur. On voit qu'au-dessus de nous, il y a un vide, qu'en dessous de nous, il y a également un vide, et que derrière ce vide, il y a un autre filament, qui est un filament qui passe par l'amas d'Antlia et qui lui-même va nourrir le grand attracteur. Alors si maintenant on fait une troisième coupe suivant SGX égale 0, donc on va couper à travers l'amas de la Vierge, et on va couper aussi à travers le vide qui est au-dessus de nous. Et là, on a cette reconstruction qui met en avant notamment le local void dont je vous avais parlé. Donc, je vous avais dit que la Voie lactée se trouvait sur une plaque fine qui s'appelle le local sheet, la plaque locale ou le drap local, disons. Alors, entre parenthèses, si vous réussissez à trouver un joli mot en français pour décrire cette structure, on est preneur. Et donc, au-dessus de cette plaque se trouve le local void. Et là, vous voyez qu'on a reconstruit les lignes de courant. Les lignes de courant s'éloignent du centre du vide. Donc le vide est en train de se vider encore plus, est en train de s'agrandir, et c'est ce qu'on a réussi à mettre en évidence dans ce type de cartographie. Alors une des parois du vide est constituée par ce filament qui passe par l'amas de Fornax, donc ça doit être le fourneau, la constellation du fourneau, je pense, oui, dans la constellation du fourneau. Donc les courants déjà s'échappent du vide local, rejoignent le filament, coulent le long du filament, et là ils vont repartir vers l'arrière-plan de cette carte. Et puis finalement c'est ce qu'on voyait ici. Donc voilà, c'est ce flot qu'on voit ici, qui s'est originellement échappé du vide local et change de direction à 90 degrés pour repartir vers le grand attracteur. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et là, on reconstruit donc aussi l'amas de la Vierge avec un filament. Et vous vous rendez compte aussi, alors ici, la carte va jusqu'à l'amas de Coma, mais nos données n'allaient pas si loin. Donc on était, avec cette première publication, limité dans cette région de l'univers. Et donc vous allez voir qu'avec l'étude que je vais maintenant vous montrer à partir de maintenant sur l'ANIACA, on est allé beaucoup plus loin avec un deuxième catalogue de galaxies. Alors, le film dont je vous ai parlé, vous pouvez le consulter à cette adresse, irfu.ca.fr/cosmographie. C'est donc une vidéo de l'exploration de la cosmographie de l'univers local qui reprend toutes les cartes que je viens de vous présenter et qui passe progressivement de manière fluide et intuitive d'une carte à l'autre. Et alors, vous avez plusieurs versions de la vidéo. Vous avez le commentaire en français, notamment. Et si vous avez la chance de disposer à la maison d'une télévision dernier modèle en relief, vous avez une version en relief et vous allez pouvoir voir toutes ces cartes en relief sur ce type d'appareil. Et cette vidéo elle a été consultée environ 400 000 fois. Alors c'est assez étonnant parce que c'est une vidéo qu'on avait faite pour la communauté d'astrophysiciens. Et elle a été reprise par des médias. Et ça intéresse le grand public, donc je vous encourage à la voir si vous voulez avoir plus d'informations là sur la cosmographie. Alors en 2014, on s'est donc attaqué à un deuxième catalogue de galaxies. Donc on avait un premier catalogue avec 1700 galaxies, là on est passé à un catalogue de 8000 galaxies, et où on a mis en évidence les frontières de notre super amas de galaxies. Donc on a présenté cette carte et également une vidéo de 7 minutes. Et on a proposé un nouveau concept qui donne une définition nouvelle, et disons une définition mathématiquement bien défini de ce qu'est un super amas de galaxies. Alors cette publication, on a eu la joie qu'elle soit acceptée dans Nature. Elle avait fait la une et on avait eu toute une promotion qui avait été faite, avec notamment une vidéo qui a été produite et dont je vais vous reparler. Alors ça, c'est pour vous comparer, c'est pour vous montrer d'où on venait en fait. Donc ce que je vous ai montré jusqu'à présent, le catalogue Cosmic Flows 1, c'était simplement ces mesures dans cette petite région de l'univers au centre avec des flèches rouges et bleues, là on ne voit pas très bien, mais nos mesures couvraient cette région et on avait quand même fait des choses intéressantes donc avec cette cartographie du grand attracteur notamment et du local void. Alors donc dans cette deuxième campagne d'observation, on est passé à ce jeu d'observation, Cosmic Flows 2, 8000 galaxies jusqu'à 30 000 km par seconde. Alors si maintenant on regarde du dessus ces deux cubes, alors là, à gauche, on avait Cosmic Flows 1. Donc là, vous voyez qu'on a ici, là, c'est ce qu'on appelle le grand mur que je vous ai montré dans une carte. Donc on n'allait pas du tout jusqu'au grand mur. On couvrait à peine l'amas de la Vierge et à peine au-delà. Et avec le catalogue Cosmic Flows 2, on couvre le grand mur, on va même au-delà. Et on va notamment dans cette région. Alors très intéressant, vous voyez ici cette surdensité. C'est ce qu'on appelle la concentration de chapelet. Et cette concentration de chapelet, elle se trouve dans la direction de notre mouvement dans l'univers. Donc elle est potentiellement très intéressante pour expliquer notre mouvement dans l'univers. Disons que le grand attracteur se trouve ici et chapelet se trouve derrière. Donc c'est probablement le fin mot de l'histoire de notre mouvement de 630 km par seconde se trouve probablement dans chapelet. Là. Mais ça, on ne va pas y répondre ce soir. Alors, quand on a... C'était au printemps 2013. Donc Brent Tully est venu me voir à Saclay. Et Yehuda Hoffman à Jérusalem venait de reconstruire le champ de vitesse sur ce catalogue Cosmic Flows 2. Et avec Brent, donc, on a vu apparaître cette carte. Et vous voyez que sur cette carte, donc, vous avez toujours ce fameux plan que j'appelle l'équateur supergalactique, donc toujours avec SGX, SGY, avec la Voie lactée qui est là, l'amas de la Vierge qui est là, le grand attracteur qui se trouve ici. Donc quand on a reconstruit les courants cosmiques, on les a visualisés pour la première fois, on s'est rendu compte qu'on avait identifié une zone à l'intérieur de laquelle ces courants cosmiques convergeaient sur un attracteur unique. Et non seulement ça, mais en plus, on voyait apparaître la prochaine structure, la structure plus éloignée, derrière ce qui allait devenir notre super amas de galaxies, avec la reconstruction de ce qu'on appelle désormais des bassins d'attraction. Donc, ces bassins d'attraction, en fait, ce sont des volumes de l'univers définis en trois dimensions. Donc là, vous les voyez en 2D seulement. À l'intérieur duquel les courants cosmiques convergent sur un attracteur unique. Et ce qui nous a tout de suite interpellé, c'est l'analogie qu'on pouvait faire avec la notion de bassin versant en hydrographie. Donc vous savez que les territoires sont découpés en bassins hydrographiques. Donc par exemple, le territoire français, vous pouvez le découper en quatre bassins hydrographiques. Voilà, pour la Méditerranée, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la même chose pour, en quelque sorte, découper les territoires extragalactiques. Et alors ça, c'est assez étonnant, c'est, du point de vue, enfin de l'anecdote, disons, on est dans ce qu'on appelle la sérendipité, en fait. C'est le fait qu'on, là, on trouve quelque chose qu'on ne cherchait pas. Puisqu'on était en train de vouloir expliquer notre mouvement dans cette direction. Et c'est pour ça qu'on était là ce jour-là à regarder ces données. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ce phénomène d'un bassin d'attraction qui était clos, qui était bien défini et qui était séparé de bassins d'attraction voisins. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer dans les cartes suivantes. Là, on a le bassin d'attraction du superamas de Persée-Poisson. Là, on a le bassin d'attraction du superamas de Coma et là, celui du superamas de Chapelet. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait là un concept, en fait, une définition nouvelle qu'on a proposée à la communauté à travers cet article dans Nature. Voilà. Et alors, cette analogie avec les bassins, elle est super intéressante, avec les bassins versants, parce que Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'autoroute entre Paris et Lyon. Et il y a un moment sur l'autoroute A6, on rencontre un panneau. On a un panneau qui nous indique qu'on est en train de franchir la ligne de partage des eaux. Et donc, c'est exactement ce qui se passe si vous aviez un vaisseau spatial intergalactique, si vous partiez de la Voie lactée et qu'à un moment, vous dirigez vers Perse et Poisson, il y a un moment où vous auriez un panneau et qui vous indiquerait que vous êtes en train de franchir une ligne de partage des eaux, non pas une ligne de partage des eaux, mais une ligne de partage des courants cosmiques, avec d'un côté de la frontière les courants cosmiques qui partent vers le grand attracteur et de l'autre côté de la frontière les courants cosmiques qui partent vers Perse et Poisson ici. Et alors, c'est assez étonnant, cette notion de bassin versant, parce qu'en plus, c'est dans un endroit vraiment très plat. Alors, on pourrait imaginer que les bassins hydrographiques se séparent au niveau de la crête de montagne, mais en fait, pas du tout. Ils passent aussi par des endroits très plats, comme c'est le cas sur l'autoroute A6. Et c'est absolument étonnant de penser au destin d'une goutte d'eau qui tomberait du ciel. À un centimètre près, si elle tombe d'un côté de la frontière, elle finira dans la Méditerranée. De l'autre côté, elle finira dans l'Atlantique. Et vous avez exactement le même type de situation qui naissent dans l'univers, partout. Et en fait, avec la Voie lactée, on est très près. Je vais vous montrer dans les cartes qui suivent qu'on est très près de la frontière, en fait. On est très près de la ligne de partage des eaux. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est en deux dimensions, en quelque sorte. Et donc, ce bassin d'attraction existe bien en trois dimensions. C'est ce qu'on a vérifié, c'est ce qui est le résultat important. Et là, vous avez une reconstruction en trois dimensions de sa surface. Donc, cette surface est fermée dans toutes les directions. Elle contient ce qui était historiquement désigné sous les termes de super-amas de la Vierge. L'amas de la Vierge se trouve ici. Et alors, quand je vous ai parlé de cette notion de zéro énergie surface, et qui était, donc, le super-amas de la Vierge, c'est une notion historique, en fait, et qui est quelque peu dépassé, puisqu'on sait maintenant aujourd'hui que, par exemple, la Voie lactée n'appartient pas, ne tombera jamais sur l'amas de la Vierge, et donc ne fera jamais partie de l'amas de la Vierge. Et donc ça remet en quelque sorte en cause cette notion de super-amas de la Vierge. Alors historiquement aussi, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait Hydra Centaurus, parce que l'amas du Centaure est proche d'un amas de l'amas d'Hydra. Donc historiquement, on appelait ça le super-amas Hydra Centaurus. Le filament Norma Pavoindus aussi, il y a des groupes qui ont présenté ça comme un super amas. Et nous, aujourd'hui, on dit que non. Tout ça, en fait, ce sont les composantes du super amas, de notre super amas de galaxie, qu'on a appelé l'Aniakea. Alors, l'Aniakea, donc vous savez que mon collègue, qui est Brent Tully, qui est donc cet astrophysicien senior, donc qui est quand même à l'origine de cette découverte, Alors, il est canadien d'origine, mais il a passé toute sa vie à Hawaï. Et donc, on a voulu rendre hommage à la culture polynésienne et aux traditions de navigateurs et d'astronomes des Polynésiens. Et alors, c'est tout à fait étonnant parce que les navigateurs polynésiens étaient capables de traverser tout l'océan Pacifique, et notamment était capable de couvrir un immense triangle qui allait des îles Samoa aux îles Hawaï à l'île de Pâques. Donc ils étaient capables de parcourir des immensités d'eau, typiquement 2 ou 3 000 km, donc en utilisant les étoiles et en utilisant aussi les courants. Parce que si vous étiez en plein milieu de l'océan, si vous voyez arriver vers vous des choses qui flottaient sur l'eau, comme des brindilles, des feuilles ou des morceaux de noix de coco ou autres, ça vous indiquait que dans la direction d'où venait le courant, il y a une Terre. Et c'est tout à fait étonnant parce que nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On utilise les courants cosmiques de la même manière que les courants océaniques renseignaient les navigateurs polynésiens. Les courants cosmiques, aujourd'hui, nous renseignent sur la structure de l'univers et nous permettent de construire des cartes. Alors, ici, alors oui, alors le terme l'Aniakea, en fait, il a été proposé par un spécialiste de la langue hawaïenne. Donc, c'est la contraction de deux mots, le terme lani, qui veut dire le ciel, les cieux, disons, et akea, qui veut dire grand, immense. Alors, en français, nous, on aime bien le traduire par horizon céleste immense. Voilà, c'est comme ça qu'on a nommé notre super amas de galaxie. Alors, pour la petite histoire, c'est ce que je racontais à Eric Chappelle alors que nous étions en train de dîner. Quand on a écrit cet article, donc on avait mis le nom l'Aniakea dans l'article, il est passé par l'éditeur de Nature, qui a dit OK, qui l'a envoyé aux trois référises. Donc les trois référés ont accepté le papier. Il est revenu à l'éditeur. Et là, l'éditeur a eu un doute. Il nous a demandé, mais là, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de donner un nom comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Et donc, il a demandé formellement qu'on obtienne l'autorisation de l'Union Astronomique Internationale. Donc là, ça a été un petit peu un coup de Jarnac. Et on a écrit à la présidente de la commission de l'Union Astronomique Internationale qui se préoccupe des affaires extragalactiques, disons, Françoise Combes, qui a réuni un comité. Le comité a voté et ça a été vraiment chaud, il paraît. Donc ça a été accepté, mais de justesse. Voilà. Le nom a été accepté, validé, approuvé par l'Union Astronomique Internationale. Et donc, alors voilà, sur cette carte, elle est très intéressante. Alors, d'abord, on va parler de ce qui n'est pas bon. C'est que sur cette carte, vous voyez que là, vous avez vraiment une représentation manifeste de ce phénomène de la zone of avoidance. Donc là, ici, on a le système de coordonnées supergalactiques, donc ici, avec la longitude et la latitude. Et là, vous voyez le plan de notre galaxie. Il est à l'origine de cette zone sombre ici, qui fait ça, qui passe par les bords. Et donc, vous voyez que derrière cette zone sombre, on n'a pas d'information directe. On ne mesure pas les galaxies. Et sur cette carte, justement, ce que je représente, c'est la position des galaxies qui sont à l'intérieur de l'enveloppe des Laniakea. Et là, alors qu'est-ce qu'on voit? Donc, les composantes essentielles, c'est qu'on voit l'amas de la Vierge. Ici, on voit l'amas de Fornax et d'Eridanus. Là, on voit Antlia. Et ici, on voit l'amas du Centaure. Là, on voit le filament de Pavo-Indus. Et là, quand on voit cette image, on se rend compte qu'on est dans une situation très raisonnable et que tout s'éclaire. On est en fait dans cette situation du Cosmic Web avec un nœud au centre, l'amas du Centaure. En fait, il n'y a pas que l'amas du Centaure, il y a d'autres amas autour de lui qui constituent le Great Attractor, le grand attracteur. Et sur ce grand attracteur, on a cinq filaments qui convergent, donc avec des trajectoires compliquées, hein, parce qu'il se passe des choses en trois dimensions. Mais vous voyez essentiellement le filament qui passe par Virgo, le filament de Pavo-Indus, le filament d'Antlia ici, et ce qu'on a appelé le Soufern Supercluster filament aussi qui converge dessus. Et donc, on aboutit quand même à cette situation raisonnable qu'on est en train de capturer un morceau du Cosmic Web avec un nœud et les filaments qui convergent sur ce nœud. Et finalement, c'est à ça que ça correspond, l'Laniakea. Alors maintenant, on peut faire machine arrière. Ça, je vais vous montrer une slide que j'aurais pu vous montrer au début, en fait, pour vous représenter la difficulté du domaine. Là, je mets toutes les galaxies. Donc c'est la grosse pagaille, il y a un empilement monstrueux de galaxies. Donc on retrouve toujours Virgo qui est là. En fait, derrière Virgo, là, on ne s'en rend pas compte, mais derrière lui, il y a l'amas de Coma. Et tout autour de Coma, il y a le grand mur qui est là. Et puis on a réussi à distinguer plus ou moins le filament de Pavo-Indus qui est là. Là, ici, on voit le magnifique filament de Persée-Poisson. Alors, le filament de Persée-Poisson, c'est comme... C'est assez extraordinaire, c'est comme si vous prenez un collier de perles, donc avec un fil, et que vous enfiliez des petites perles dessus. Ça fait quasiment la même chose dans le ciel. Et là, donc, si on était parti de là, vous vous rendriez compte de la difficulté du domaine, c'est dire à quoi on appartient dans ce bazar, en fait. Et grâce à l'identification de cette surface, à l'intérieur de laquelle les courants cosmiques convergent sur un attracteur unique, on réussit à filtrer, à enlever ce qui n'appartient pas à notre super-amas. Donc ça vous illustre un peu la puissance. Bon, alors le secret du truc, c'est aussi ce filtre de Wiener, c'est cet algorithme qui permet de reconstruire les courants cosmiques en trois dimensions. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques cartes du super-amas de galaxies. Donc il est représenté ici à travers cette frontière, là toujours sur le plan de l'équateur supergalactique, donc avec SGX, SGY, toujours pareil. La Voie lactée qui est là, l'amas de la Vierge qui est là, Virgo. Donc on a réussi à identifier une frontière qui nous sépare. Donc, on peut revenir à l'analogie avec l'hydrographie, donc avec le bassin versant de Chapelet, le bassin versant de Coma, le bassin versant de Persée-Poisson. On a réussi à reconstruire notre propre bassin versant. Il fait une dimension typique de 160 mégaparsecs et il a une masse d'environ 10 puissance 17 fois la masse du Soleil. Et alors, il y a plein de choses intéressantes aussi, c'est que vous voyez aussi les courants cosmiques se structurent sous forme de filaments. Donc ces filaments là, qui convergent sur le grand attracteur, on les voit, qui se matérialisent. Sur cette carte, vous voyez une matérialisation aussi de la zone of avoidance, la zone obscuration, cette zone grisée, à l'intérieur de laquelle on n'aura jamais de mesure directe, mais pourtant, à travers laquelle on est capable de faire de la cartographie. On voit les courants cosmiques passer à travers. Et comme on est capable de reconstruire les courants cosmiques qui passent à travers, on est capable d'en déduire les champs de densité. Et c'est cette image que vous voyez en arrière-plan, avec les couleurs sombres, noires, bleues, qui sont les vides, et avec les régions vertes qui sont plus denses, donc Percé Poisson, Coma, Chapelet, et les rouges aussi, avec ici la Mas de la Vierge, par exemple. Et alors, ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a quelque chose d'absolument raisonnable au niveau de la frontière. Vous voyez que la frontière, elle passe, en fait, elle passe à travers les vides. Elle parcourt comme ça tous les vides qu'elle peut rencontrer qui nous séparent, nous, la Niakea, de nos super-amas voisins. Et il y a aussi, alors, du point de vue de la physique, c'est extrêmement riche aussi. On trouve des phénomènes qui intéressent beaucoup les spécialistes des courants cosmiques, avec notamment ces régions où il y a les flots partent dos à dos, dans des directions opposées. Donc, ce sont des régions particulières qui ont lieu typiquement au milieu des filaments. Donc là, vous avez un filament qui connecte Percé Poisson au grand attracteur qui se trouve au cœur de la Niakea. Donc, vous avez un filament. Et le filament est coupé en deux. Et d'un côté, les flots partent dans un sens ou dans l'autre. Et on retrouve donc l'analogie de la goutte d'eau qui tombe sur la ligne de partage des eaux. Alors, dans la vue suivante, alors ça, c'est X. Alors, XZ, c'est si on fait une coupe ici. Donc, on va faire une coupe suivant SGY égale 1000. On obtient cette image. Donc, on voit que la Niakea est donc séparée des autres bassins d'attraction avec cette frontière. Alors là, on voit... C'est en quelque sorte une représentation en trois dimensions aussi, parce qu'on voit les lignes de courant qui peuvent passer derrière, en fait, hein, qui font le tour et qui évitent, en tout cas, le bassin d'attraction de la Niakea. Et sur ce plan, vous voyez aussi le filament de Virgo et aussi cette structure en filament qui viennent alimenter le grand attracteur. Et toujours aussi ce comportement caractéristique de la ligne de partage des eaux qui passe par les centres des vides qui nous entourent et nous séparent de des super-amas voisins. Alors maintenant, ça c'est une coupe à SGX égale moins 5000 hein, qui va nous faire passer par le cœur de la Niakea. Et là, vous voyez très bien illustré le phénomène de la zone of avoidance. Donc là, sur cette tranche de l'univers, elle est lourdement affectée donc, par la zone d'obscuration. Donc il y a toute cette région de l'univers où on n'aura jamais d'information directe et où pourtant on réussit à cartographier l'univers à travers ces courants cosmiques. Alors là, je reviens sur des vues à trois dimensions. Alors là, je vous montre... Alors, vous avez X, Y, et c'est donc une vue en perspective vue du dessus. Alors, cette surface, ici, représente l'enveloppe de la Niakea. Et au centre, je vous montre ce qu'on appelle des isosurfaces du champ de densité. Donc, ça vous montre les lieux de l'univers qui sont à une certaine valeur de la densité. Et je vous en ai représenté trois. Donc, en bleu, ce sont des valeurs relativement faibles. En vert, à l'intérieur, des régions de densité intermédiaire, et en rouge, au centre, les régions les plus denses. Et donc, ça vous montre le champ de densité, en fait. Et vous voyez que la Niakea, donc, contient cette structure typique, filamentaire, typique du Cosmic Web, donc avec ces filaments qui convergent sur le grand attracteur, avec notamment le filament de Pavo-Indus, qui passe par l'amas de galaxies de Norma, et le filament qui passe par Virgo. Et on est bien séparé aussi... Alors, ce n'est pas facile à voir, parce que vous avez l'impression qu'il y a un recouvrement entre la surface de la Niakea et la surdensité de Percé Poisson, ici, Perseus Pisces. Et il faut justement voir plusieurs perspectives pour se rendre compte qu'ils sont bien séparés. Voilà, là, vous avez Percé Poisson. Percé Poisson, donc, semble être associé lui-même à un immense super-amas de galaxies et dont on n'a pas assez de données aujourd'hui pour le circonscrire entièrement, mais dont on a l'impression qu'on voit le cœur ici, de la même manière qu'on voit le cœur de la Niakea ici, avec son enveloppe autour. On espère que dans l'avenir, on sera capable de reconstruire le bassin d'attraction qui entoure le cœur de Percé Poisson. Donc ici, une troisième vue qui vous montre que la Niakea aussi et son cœur est bien séparé d'Hercule, de Chapelet, de Coma et de Persée-Poisson. Alors, dans cette publication, j'ai également produit une vidéo qui fait 7 minutes, qui est disponible à cette adresse, qui vous permet d'explorer ces cartes avec un commentaire en français ou en anglais, et également une version en relief. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que Nature a produit sa propre vidéo en utilisant non seulement cette vidéo, mais la vidéo de 17 000 dont je vous ai parlé avant, la Cosmography of the Local Universe, et a produit cette vidéo qui a eu un énorme succès sur Internet, puisqu'ils l'ont mis en fait, ils ont une chaîne sur YouTube qui s'appelle Nature Video, qui contient environ 200 ou 250 maintenant vidéos qu'ils produisent depuis peut-être 10 ans. Et en quelques jours, elle est devenue numéro 1 avec 3 millions. Aujourd'hui, elle atteint quasiment 3 500 000 vues. Si vous voulez, c'est donc une représentation qui est vraiment bien faite, qui vous montre en fait les principaux résultats de cette étude. Alors, depuis qu'on a fait cette étude, on a fait une nouvelle publication, en fait, où on étudie les relations de la Niakea avec son environnement. Alors, sur cette carte, vous voyez que j'ai représenté une isosurface du champ de densité de la Niakea, de Coma et de Persée-Poisson. Et ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé une petite structure qui se trouve à l'interface de ces trois grandes structures et qui est un petit bassin d'attraction et qui semble être en équilibre, qui survit malgré l'influence gigantesque qu'il subit de la part de ses trois voisins géants. Et on est un petit peu dans l'analogie avec... alors, en anglais, on appelle ça... Il y a un jeu qui s'appelle The Tug of War. C'est le jeu de la corde en français, quand deux équipes tirent une corne. On a la même situation ici, sauf que c'est encore plus compliqué, parce que c'est comme si on mettait avec des cordes, avec trois équipes qui tirent chacune un objet qui se trouve au centre. Et donc, effectivement, au centre, il y a une région de l'univers qui est tirée, qui est à la fois poussée par un vide et tirée par les trois grandes structures qui se trouvent là, et qui survit en équilibre et qui développe son propre bassin d'attraction et qui donc satisfait le critère pour être un super amas de galaxies. Et qui n'est pas si petit que ça, puisqu'il est aussi grand que la région que historiquement on appelait le super amas de la Vierge, hein, qui se trouve ici. Alors cette structure a une forme de triangle, donc à la fois comme ça ici vu en projection et vu en 3D. Ça a une forme, ça ressemble à une pointe de flèche de l'époque de l'âge de pierre, et donc on l'a appelé Arrowhead. Voilà. Et là, on ne nous a pas demandé d'avoir l'autorisation de l'Union Astronomique Internationale. Donc voilà, j'en viens à la fin de ma présentation. Et alors le futur, là, pour l'instant, on est en train de travailler sur un nouveau catalogue, le catalogue Cosmic Flows 3, qui va être publié d'un jour à l'autre, et qui va contenir... environ, je crois, 18 000 galaxies, alors qui sera une extension en fait de Cosmic Flows 2, avec des mesures photométriques qui proviennent en infrarouge, qui proviennent de ce télescope spatial qui s'appelle Spitzer, qui n'est plus en opération, mais dont on dispose des données. Et surtout, alors, ce nouveau catalogue va inclure un échantillon avec un grand nombre de galaxies, 10 000 galaxies environ, dans le ciel du sud, où on n'avait pas beaucoup de données, avec l'observatoire astronomique australien. En fait, c'est un consortium anglais qui utilise, qui a fait un survey du ciel du sud, qui s'appelle 6DF, le 6 Degree Field Instrument. Et on a accès à ces données, et ça va être inclus dans notre nouveau catalogue Cosmic Flows 3. Ensuite, à plus longue échéance, on a le Cosmic Flows 4 aussi, qui est en train d'être... sur lequel mes collègues réfléchissent. Alors là, on aura des observations radio avec les télescopes qui sont les précurseurs de SCA. C'est un énorme projet de radiotélescopes qui couvriront une zone de plusieurs kilomètres carrés au sol en Australie et en Afrique du Sud. Donc voilà. Et pour la photométrie, on utilisera des données de WISE. Donc c'est un télescope spatial de la NASA qui est actuellement en opération. On utilisera aussi les données de ce télescope, le Pan-STARRS, qui se trouve aussi à Hawaï, mais pas sur le Mauna Kea, qui se trouve sur Maui, sur l'observatoire d'Haleakala. Et on utilisera aussi des données du projet SkyMapper en Australie. Voilà. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vous en prie.
Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions, des compléments à demander ? Autre ? Oui. Alors, je vais vous demander de parler au micro parce que c'est enregistré, donc c'est pour entendre la question.
Oui, bonjour. Merci pour votre superbe présentation. Si j'ai bien compris vos travaux, en fait, toutes les frontières des amas que vous avez définies, elles dépendent de la constante de Hubble. Et du coup, est-ce que vous avez fait d'autres simulations avec d'autres valeurs de constantes ? Et est-ce que vos travaux, par exemple, pourraient conforter une valeur pour cette constante-là ?
Alors, les cartes que je présente, en fait, donc comme on les présente dans ce qu'on appelle les co-moving coordinates, donc, qui se trouvent donc correspondre au flot de Hubble. Donc, en fait, ça ne modifierait pas les cartes en termes de. On a mis sous le tapis la question de la constante de Hubble. Donc, vous pouvez. C'est pour ça qu'on n'a pas mis les cartes en mégaparsec. On les a laissées en kilomètres par seconde pour s'abstraire. Alors, il n'en demeure pas moins que H0. Fait partie des nombreux paramètres qui sont pris en compte par le filtre de Wiener en tant qu'un des éléments du modèle standard de la cosmologie. Et donc, si je dois dire que j'aurais du mal à répondre à la question, mais si on faisait varier H0, je ne saurais pas exactement quel serait l'impact sur ce que je présente aujourd'hui, mais ça aurait, disons, un impact sur les sur les flots à grande échelle, c'est-à-dire que, et notamment dans la recherche de l'explication de notre mouvement de 630 km par seconde, mais ça n'affecterait pas, en fait, le résultat suivant lequel on peut décomposer le flot dans des bassins d'attraction. Donc je ne pense pas que le bassin d'attraction de la Niakea serait remis en cause, non, voilà. Oui. Vous pourriez le dilater ou le faire se contracter, donc... si vous passiez des kilomètres par seconde au mégaparsec, en fonction de la constante de Hubble. Mais par contre, cette valeur de H0, je pense, a un rôle très important quand on voudra... Alors, normalement, avec Cosmic Flows 4, je pense qu'on aura assez de données pour expliquer notre mouvement de 630 km par seconde. Et là je pense que la valeur de H0 aura une importance cruciale. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a... Pour l'instant... Alors, c'est un débat historique, cette constante de Hubble. Donc dans les années 80, il y avait des groupes donc, qui l'ont placée à 50, d'autres qui l'ont placée à 100. Brent Tully l'a placée à 75. On est toujours à cette valeur, nous. Et donc, l'analyse du fond diffus cosmologique la place aujourd'hui à 67 ou 68 km par seconde. Donc, on est quand même en train de converger. Il y a de moins en moins de désaccords entre les différentes mesures, entre les différents groupes. Ouais.
Y a-t-il d'autres... Et après, pour revenir à la constante, je crois que Hubble, à son époque, hein, mais bon, il a placé à peu près à 400, il me semble, si ma mémoire est bonne. Ouais. Il me semble, mais je ne veux pas confirmer ce soir, mais j'ai vaguement ce souvenir de chiffres en tête. Donc, vous voyez, au niveau de l'évolution, en même pas un siècle. Mais à son époque, c'était normal qu'il y avait très, très peu de mesures.
On m'avait parlé aussi de la galaxie, donc qui allait bien dans un sens, dans une direction, et donc cette direction, on l'appelait l'apex.
Oui.
Alors, je sais, voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Alors, l'apex, ça correspond effectivement à la direction de notre mouvement, mais il n'est pas matérialisé sur les cartes que je vous ai présentées aujourd'hui. Oui. Voilà, on arrive. Hop. Voilà. Alors, l'APEX, il se trouve... ça, c'est le système de coordonnées auquel je n'ai pas l'habitude. Moi, j'utilise le... Je suis très familier avec le système de coordonnées supergalactique. Et là, c'est un autre système de coordonnées. C'est le système de coordonnées galactiques. Hein, donc, qui se trouve... La Voie lactée se trouve ici, à latitude nulle. Je sais que l'amas de la Vierge se trouve ici. Et donc, l'APEX, hein, il se trouve... l'APEX, on le voit, il est ici. Ouais. C'est simplement cette direction. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on veut dire avec l'APEX. Ouais.
C'est quelque chose qui attire...
C'est la direction de notre mouvement, ouais, effectivement. Ouais.
Qui est... Un super grand
Eh bien, alors, disons que... C'est tout l'enjeu de notre projet. C'est d'expliquer ce mouvement de 630 km par seconde. Et là, on a, je vais reprendre... Je vais repasser toutes les cartes, désolé. Voilà.
C'est pour ceux qui arrivent en retard.
Oui, on va tout. Alors, peut-être celle-là. Alors, c'est vrai que on a un terrain un petit peu miné, là, parce que les choses commencent à... Il commence à y avoir une histoire et ça... Enfin, en 2013, j'ai vu quelqu'un qui a essayé de faire un talk là, dans une conférence, qui a essayé de raconter l'histoire du grand attracteur. À la fin, plus personne n'y comprenait plus rien. Et donc, ce qu'on appelle le grand attracteur, c'est simplement, pour moi, hein, c'est la direction de notre mouvement. Voilà. Et donc, ça pointe dans cette direction. Et alors après, historiquement, il y a eu des publications dans les années 80, et notamment un groupe de chercheurs qu'on appelait les 7 samouraïs. Hein, ils étaient 7 dans la liste d'auteurs. Et donc, ils ont associé historiquement donc, le grand attracteur avec l'amas du centaure. Et là, il y a l'amas norma aussi qui se trouve pas loin, juste de l'autre côté de la zone of avoidance. Et donc, le grand attracteur est devenu non pas une direction, mais est devenu vraiment concrètement un lieu de l'univers. Et alors, Brent Tulid, dans notre publication sur l'Aniakea, il a voulu qu'on en reste là et qu'on appelle le grand attracteur... cette région ici qui est le cœur de l'Aniakea, disons. Mais en fait, l'histoire n'est pas finie parce que derrière, il y a Chapelet. Et là, on voit une espèce de structure en forme de cigare. Donc en fait, c'est un amas de galaxies avec beaucoup de galaxies. Et donc, il a cette forme de cigare à cause d'un effet, un phénomène cinématique. Bon, normalement, ça doit être un objet sphérique. Et alors, il se trouve qu'autour de lui, il y a plein d'autres amas de galaxies. Et donc, c'est ce qu'on appelle une concentration d'amas de galaxies, la concentration de Chapelet. Et on a besoin, et c'est probablement de là que vient notre mouvement, que vient l'APEX dans le CMD, c'est là que se trouve le mot final dans l'explication de notre mouvement. Voilà.
Alors
ça, c'est un truc qu'on appelle, il y a un terme anglais, donc c'est ce qu'on recherche, on appelle ça the end of greatness, donc la fin de la grandeur. C'est ce qu'on recherche, on cherche à atteindre la fin de la grandeur. On veut trouver le truc le plus grand auquel on appartient. Donc c'est exactement ça l'objectif de notre projet. Et on va voir ce que nous dira en particulier Cosmic Flows 4 et puis les autres groupes qui travaillent là-dessus. Mais moi, ça me semble très raisonnable de dire que Chapelet est probablement au centre d'une très grande structure qui, elle, est au repos par rapport au fond diffus cosmologique. Ce volume au repos par rapport au fond diffus cosmologique, c'est ce qu'on espère pouvoir reconstruire un jour. Hein. À travers ce type d'études. Et puis, alors, sinon, il y a un truc marrant aussi sur lequel on travaille, c'est que, en fait, il y a des notions duales de répulsion et d'attraction dans tout ça. Puisqu'en fait, on est dans un cadre conceptuel qui est celui de la mécanique des fluides, où les fluides se déplacent des régions les moins denses vers les régions les plus denses. Et donc, vous pouvez aussi bien penser que vous êtes attiré par un endroit très dense, ou vous êtes repoussé par un endroit vide. Et c'est ce qu'on recherche, en fait, en ce moment aussi. on regarde, mais en fait, on n'est pas plutôt repoussé par quelque chose de vide qu'attiré par quelque chose de surdense. Et donc ce sont des questions encore ouvertes, très intéressantes.
Oui. Oui, c'est ce qu'on retrouve à grande échelle au niveau des galaxies lointaines qui vont plus vite que ce qui est prévu. Donc plus il y a d'espace vide, plus ça accélère.
Oui, alors c'est le problème de l'énergie noire.
Oui, l'analogie est proche. Oui. Alors juste au niveau de l'APEX, je voudrais juste revenir, parce qu'il y a deux façons de le voir aussi. Là, on est au niveau des galaxies, mais dans notre galaxie, il y a aussi le déplacement du Soleil qui va quelque part. Et donc là aussi, il y a un APEX, mais on va dire solaire, hein, c'est vers la constellation d'Hercule. Mais on est à notre échelle. Voilà. Non, je précise parce que si vous documentez, vous êtes perturbé entre les deux. Et voilà. Donc c'était juste pour préciser deux niveaux. Là, on est dans les galaxies.
Et là, on le voit justement. Là, on voit un deuxième apex. Là. Et ça, je pense que c'est le mouvement du Soleil autour de la galaxie. Voilà. C'est quoi, je crois que c'est 200 km par seconde.
200-300, enfin.
300 km par seconde.
Donc, ce qui est très dur à calculer, en fait.
Des collisions
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des compressions. Voilà. Les flots sont comprimés. Et alors, les cas de figure, donc, c'est, premièrement, il y a le vide. Donc, le vide, tout s'éloigne du centre du vide. Et ça, c'est mathématiquement, on le décrit avec ce qu'on appelle le tenseur de cisaillement. Donc c'est si vous prenez la dérivée de la vitesse, des composantes de la vitesse, dvx sur dvy plus dvy sur dvx, et vous faites une matrice comme ça, 3 par 3, avec x, y et z. Et donc ce que vous venez de dire, ça se traduit par ce tenseur de cisaillement et qu'on étudie et qui permet de caractériser justement les lieux de l'univers où il y a ces compressions. Mais sinon, on peut pas à la fois avoir à la fois répulsion... et attraction. En fait, disons qu'on est pris, dans un fluide auquel
les courants sont parallèles.
Les courants sont parallèles. En fait, ce qui compte.
C'est pour ça qu'ils se rencontrent jamais à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Oui. Les lignes de courant, en fait, normalement, ne se rencontrent jamais. Alors, sur les cartes que je vous ai présentées, vous pouvez avoir l'impression qu'elles se croisent parce que les choses sont en 3D et donc il y a un arrière-plan et un avant-plan et les choses peuvent paraître se croiser parfois. Mais en fait, les lignes de courant ne se croisent. Si on regarde... Ah, décidément, on l'aura vu plusieurs fois. Je vais reprendre celle de l'Aniakea. Voilà. Donc là, effectivement, il y en a qui se croisent, mais c'est un effet de projection. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en train de descendre, tandis qu'il y en a qui montent, et puis on a l'impression que ça se croise. Mais normalement, les lignes de courant ne se croisent jamais. Voilà. Sauf au niveau de l'attracteur, où elles convergent.
Il n'y a aucun rapport avec les trous noirs ?
Avec les trous noirs, écoutez, non, parce que les trous noirs, c'est juste un des éléments d'une galaxie. Donc, c'est ce qu'il y a au centre d'une galaxie.
Donc, qui attire quand même. Qui attire tout.
C'est simplement le fait qu'il y a beaucoup de masse concentrée dans un tout petit volume. Et c'est typiquement le genre de situation qui arrive au centre, notamment d'une galaxie spirale. Donc ces trous noirs, ils sont là dans nos cartes. Ils sont, vous voyez sur cette carte, chaque petit point blanc, là, on les voit à peine, mais c'est une galaxie. Donc au centre de chacune de ces galaxies, il y a un trou noir. Et alors donc... C'est une bonne question, parce qu'historiquement, on aurait pu dire, le grand attracteur, oulala, il y a peut-être un énorme trou noir supergéant au centre, mais ça, c'est quelque chose qui est totalement déraisonnable et qui fait plus partie des hypothèses actuelles. Et aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus raisonnables pour expliquer le grand attracteur. C'est simplement la somme de toutes les forces, de toutes les sources de matière qui existent dans l'univers environnant. Ah oui, n'hésitez pas à sortir du cadre.
Ah oui, c'est vrai que comme on est enregistré, je parle au micro. Enfin, au-delà des calculs que vous avez faits et tout, quand vous êtes retrouvé du coup devant la carte qui faisait apparaître pour la première fois les
Les bassins d'attraction.
Ouais, tout à fait. Je crois que c'est celle-là. Vous vous êtes senti comment, en fait? Parce que c'est une méga découverte, ça. Enfin,
ah bah, selon moi. Pour moi, il faut dire que je... Enfin, alors, donc, j'ai la chance de travailler avec Brian, qui est vraiment... c'est un grand, grand astrophysicien. Il a... Oui, oui, c'est lui qui a découvert la relation de Tully-Fisher, que vous avez peut-être vu apparaître à un moment dans la présentation, et qui permet à tout le monde de connaître la distance des galaxies, qui a été citée des milliers et des milliers de fois. Alors Brent est aussi à l'origine de la découverte du local void, le vide local, donc c'est vraiment quelque chose de super important. Alors le vide local... Donc le vide local, c'est vraiment pas de la tarte, parce que on a la Voie lactée, et donc on a la zone of avoidance qui est comme ça, qui crée un triangle. Et donc c'est très difficile de se convaincre qu'il y a effectivement un vide local, puisqu'il y a la zone of avoidance qui vous empêche de recenser les galaxies, et en l'occurrence l'absence de galaxies. Donc on peut douter de la réalité de la présence du local void. Et d'ailleurs, à l'époque, quand ils ont vu apparaître cette carte pour la première fois, ça aussi, c'était une confirmation de la réalité du local void. Et alors, donc, pour répondre à votre question, quand Brent Tully a vu ça apparaître sur notre écran d'ordinateur, il a tout de suite dit on a vu quelque chose de très important. Et dans la foulée, il a tout de suite écrit une lettre, un draft, un brouillon d'article pour envoyer à Nature. Enfin, ceci dit, ça, après, on a travaillé pendant un an après pour bien comprendre les données, réaliser cette vidéo et ces cartes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une aventure scientifique de participer à ce genre de choses. Ouais. C'est très, très difficile de faire passer un article dans Nature. Ouais. C'est vraiment très, très difficile.
Mais ça vient d'un tourbillon.
Oui, alors... Oui, oui, il y a ici notamment, hein, c'est ça. Non, il n'y a pas de... Tout se passe en trois dimensions. il y a trois dimensions et le temps... Non, mais c'est très intéressant, les dimensions supplémentaires, c'est quelque chose qui est considéré en cosmologie, hein, tout à fait. Et donc, vous avez là une manifestation que ces courants cosmiques sont vraiment les analogues des fluides qu'on a l'habitude de rencontrer dans notre vie quotidienne. Et notamment quand vous tirez la chasse d'eau, avec des tourbillons qui se créent. Donc c'est quelque chose de relativement nouveau, effectivement, dans le domaine. C'est de considérer, de considérer la matière comme faisant partie d'un fluide, d'un fluide en mouvement. C'est un apport qu'on est en train d'avoir pour la communauté des astrophysiciens dans tout ce qui couvre l'extragalactique. Et j'imagine d'ailleurs que ce type de technique pourrait aussi s'appliquer à l'étude de notre galaxie, hein, la Voie lactée. Quand vous regardez la Voie lactée avec ses bras spiraux qui sont en rotation, avec au centre une barre, j'imagine que si on pouvait mesurer les vitesses particulières de toutes les étoiles, ou alors d'un échantillon d'étoiles de la galaxie, on pourrait de la même manière avoir un filtre de Wiener qui nous permettrait de reconstruire les courants cosmiques qui existent à l'intérieur de notre galaxie spirale.
Je voulais savoir, vous êtes nombreux à travailler là-dessus dans le monde ?
Non, on est très très peu en fait. C'est pas du tout à la mode comme sujet. On est vraiment très très peu.
Vous êtes toute une équipe, vous êtes vraiment que quatre ou y a...
Alors, autour de nous, en fait, il y a eu des... En fait, autour de Brent et d'Hélène, il y a eu des collaborateurs sur des sujets très spécifiques qui ont donné lieu à des publications. Et nous, on est plutôt dans l'exploitation de ces résultats, de ce catalogue qui a été publié. Par exemple, le catalogue Cosmic Flows 2 qu'on voit ici. Il a été l'objet d'une publication avec une dizaine d'auteurs qui ont participé à la calibration, à l'analyse des données, au post-traitement, aux prises de données aussi. Donc ça a donné une publication. Et puis le catalogue est publié, tout le monde y a accès. Et maintenant, nous, on constitue l'équipe qui exploitons ces données. Et voilà. Et donc, pour répondre à votre question, on est très, très peu nombreux à travailler. On est assez tranquille, en fait. On n'a pas une pression forte. Et on prend notre temps... Pour analyser toutes ces données, il n'y a pas beaucoup. parce que j'ai l'impression qu'on a ouvert un nouveau champ, et pour l'instant on est un peu les seuls à l'occuper. Il y a par exemple des groupes qui prennent des grands catalogues comme ça de galaxies et qui essayent de faire des choses avec des traitements statistiques, des méthodes de traitement statistique, notamment ces fameuses méthodes bayésiennes, et qui essayent de reconstruire aussi des cartes. Mais bon, ils souffrent de ce problème de la zone of avoidance. Et ce qui fait qu'on est... On est à, c'est pas un sujet à la mode du tout.
L'ANECA que vous avez trouvée, vous êtes le seul groupe à l'avoir trouvée ?
Oui.
Oui, oui. Bon. Il n'y a pas de concurrence.
Ça reste à être validé par d'autres groupes, en fait, c'est sûr. Hein. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer au fil de ma présentation, c'est quand même l'aspect raisonnable que ça avait. Quand on connaît la fin de l'histoire, en fait, c'est beaucoup plus simple. Quand notamment on peut se convaincre qu'il y a des structures, des filaments qui passent à travers cette zone of avoidance, cette structure du cosmic web avec des filaments. Alors, le cosmic web, ça, c'est un sujet super intéressant. Et c'est le sujet de mon travail quotidien en ce moment, c'est de reconstruire le cosmic web. Et en utilisant ce tenseur de cisaillement là, que je vous ai décrit. Donc le cosmic web, c'est quelque chose qui est présent... ici, dans la façon dont sont disposées les galaxies, dont elles sont distribuées, mais qui est difficile à voir parce qu'il y a, ce phénomène de la zone of avoidance, et puis il y a ces phénomènes qu'on appelle les fingers of God. Quand vous mesurez un amas de galaxies, en fait, il y a un effet d'allongement cinématique qui fait que ça apparaît comme une sorte de cigare, comme ça. Et donc, c'est difficile de faire de la cosmographie avec ces survets de galaxies. Et donc le cosmic web est quelque chose qui est très peu connu de manière observationnelle, mais qui est par contre très bien compris de manière théorique, hein, et à travers les simulations numériques. Donc vous avez sûrement vu ces extraordinaires simulations numériques, notamment la simulation Millennium ou la simulation Illustris, qui vous montrent comment les grandes structures se forment à partir des fluctuations initiales. Et ça vous montre qu'effectivement, donc c'est vraiment un apport théorique, un apport des simulations numériques, qui vous montre que l'univers se structure dans un cosmic web avec des filaments qui connectent des nœuds et qui séparent des vides. Et ce qu'on voit dans la NIAKEA, c'est qu'on a trouvé un nœud avec les filaments qui convergent dessus, et on a une enveloppe qui coupe les filaments en deux, à mi-chemin, entre le nœud de la NIAKEA et les nœuds voisins. Et donc, dans ce sens, c'est quelque chose qui apparaît tout à fait raisonnable. La structure qu'on a trouvée.
Voilà, alors justement, ça va peut-être rejoindre cette idée, mais je ne sais même pas si ma question peut avoir une réponse, parce que c'est intégrer le temps en fait à ces mesures-là.
Oui.
Donc on a vu que la galaxie se déplaçait donc aujourd'hui vers Andromède et tout ça converge, mais simplement pour placer peut-être des notions de temps, entre la collision entre guillemets de notre galaxie et Andromède, il faudra attendre 5 milliards d'années.
C'est ça, oui.
D'ici là, enfin... à des échelles plus grandes, d'ici là, tout le paysage va changer, et donc ces courants auront aussi changé. Pour essayer de faire l'analogie, hein, mais on parlait de bassins versants au niveau de la pluie, sur une terre ferme, et là on se projette sur plusieurs milliards d'années, notre paysage aura changé, donc les bassins versants auront changé aussi. Oui. Et est-ce qu'il y a des études là-dessus, justement, sur l'évolution temporelle de ce
Alors tout à fait, alors moi je n'en fais pas partie, mais alors... Yehuda Hoffman, c'est son grand truc. Avec Hélène et Brent, ils font partie d'une collaboration qui s'appelle CLUES, Constraint Local Universe Simulation. Et donc, ils font des simulations. Donc, ils partent donc avec ces mesures de vitesse particulières. Ils les utilisent comme des contraintes sur des simulations numériques qui repartent donc des fluctuations initiales caractérisées par le fond diffus cosmologique. Ils laissent évoluer la simulation, ils reconstruisent l'univers local, ils sont capables de prédire comment évolueront ces cartes, et notamment les courants cosmiques, dans l'avenir. Voilà. Et ça, c'est c'est une grosse collaboration. Par contre, ils doivent être une trentaine de personnes à bosser là-dessus. C'est un gros, gros sujet. Très, très à la mode aussi, ça, par contre.
D'accord. Ouais.
Merci. Mais encore à déchiffrer, avec pas encore des grosses annonces. Et par exemple, l'ANIAKEA, on a réussi à le reproduire dans la simulation numérique. Alors.
Merci. Voilà, y a-t-il d'autres interrogations, commentaires ?
Pourquoi est-ce qu'il y a des différences en fait de vitesse ? Ça ne peut pas être dû à des températures non plus ?
Des différences de vitesse. Alors, le.
C'est 50 ou 600, 620, etc.
Oui, alors ça, c'est une manifestation de ce qu'on appelle le potentiel gravitationnel, c'est-à-dire les forces d'attraction qui s'exercent en chaque point de l'univers. Et donc, ce potentiel gravitationnel, il varie partout en fonction de la proximité d'un amas de galaxies ou d'un super-amas de galaxies ou d'un vide. Et donc, ça crée. C'est comme. Un champ de température, donc le champ de température, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire, donc chaque point de l'espace a sa propre valeur de la température. Et maintenant, donc, le champ de vitesse, c'est un champ vectoriel, donc en chaque point de l'univers, vous avez une composante x, y, z, et toutes les valeurs sont possibles et dépendent de la valeur du potentiel gravitationnel local. Voilà. Et donc, pour reprendre ce qui nous arrive... Alors, je peux essayer de rapidement... revoir tous les mouvements auxquels vous-même subissez les influences. Donc vous êtes sur la surface de la Terre, qui est en rotation autour de l'axe de la Terre. C'est un premier mouvement. Vous avez le mouvement de la Terre dans le système solaire autour du Soleil. Vous avez ensuite... donc ça, je crois que c'est 30 km par seconde.
La Terre, oui, autour voilà. du Soleil.
30 km par seconde. Donc vous foncez à 30 km par seconde à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil. Ensuite, le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée. Donc ça, c'est 250 km par seconde. Alors ensuite, on en arrive à la Voie lactée. Donc il lui arrive des tas de choses. Donc la Voie lactée, elle évacue... le local void, donc le vide local dont je vous ai parlé, est en expansion. Il est en train de se vider, il est en train de s'agrandir et de se vider de plus en plus. Et ce faisant, il repousse la plaque locale, qui est cette plaque auquel appartient la Voie lactée. Alors ensuite, il y a des mouvements, des choses plus locales comme la collision que vous mentionniez avec Andromède. Donc Andromède et la Voie lactée sont en train de s'attirer l'une l'autre. C'est ce que je vous ai montré avec la sphère d'énergie nulle. Et on peut appeler ça une collision, mais ça sera quelque chose de tout à fait non violent, puisqu'en fait, une galaxie, c'est essentiellement du vide, avec des étoiles qui sont séparées par des immenses distances de vide. Donc les étoiles... d'Andromède et les étoiles de la Voie lactée vont avoir chacune des orbites et finalement, après de nombreuses aventures, mais essentiellement non violentes, il n'y aura probablement jamais de collision d'une étoile contre une autre étoile. Ça finira par former une galaxie elliptique géante. Donc ça, dans 4 milliards d'années. Donc si vous aviez la chance de vivre 4 milliards d'années, il y a un moment où vous verriez... alors là, vous avez l'habitude de voir la Voie lactée. Et il y a un moment où vous verriez approcher une autre galactée, une autre Voie lactée, donc, qui apparaîtra de plus en plus grande, qui finira par envahir tout le ciel et qui sera constituée donc, des étoiles d'Andromède. Et alors ça, donc, c'est un autre des mouvements auxquels on est subi. L'autre grand mouvement, donc, c'est l'attraction par l'amas de la Vierge. Et finalement, on a cette attraction par le grand attracteur. Et derrière encore, on a l'attraction probablement par Chapelet, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, on est en train de subir plein de choses différentes. Et tout ça, à la fin, ça contribue à notre mouvement de 630 km par seconde qu'on voit dans le dipôle du fond diffus cosmologique.
Mais vous dites non violent, et pourtant, c'est affreusement violent ce qui se passe dans le cosmos.
Oui, il y a des phénomènes...
Ça phagocyte entre eux, carrément.
Oui, mais là, on est... Pour les galaxies, c'est différent, puisque c'est essentiellement du vide contre du vide, hein. Parce qu'il y a beaucoup de vide parce que la matière est concentrée dans des étoiles qui sont des sortes de ce qu'on appelle des pics de Dirac en fait, hein. des régions très très hyper denses mais très 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 petites. Hein.
Juste pour faire une analogie que je donne souvent donc aux enfants, au grand public, au niveau de la représentation d'une galaxie, en tous les cas la nôtre, en imaginant que le système solaire soit un grain de sable, et je vous comprimez tout le système solaire en un grain de sable, notre galaxie, ça serait à peu près la taille du département de la Vienne. Vous voyez au niveau de l'échelle. Ouais. L'étoile la plus proche, elle serait à 4 mètres de ce grain de sable, et ce sera un autre grain de sable. Et entre les deux, ben, y a, entre guillemets, il n'y a rien. Donc on peut largement faire passer un grain de sable entre les deux.
Alors l'antimatière, c'est un super sujet, j'ai fait ma thèse dessus, hein. Mais il n'y a pas du tout d'antimatière là dans ce sujet. Alors l'antimatière, alors en cosmologie c'est super intéressant parce qu'on pense que dans le Big Bang il y aurait dû y avoir autant d'antimatière que de matière créée, mais curieusement, c'est encore autre chose la matière noire.
On complétera par les conférences à venir.
Alors, oui.
Peut-être, hein, voilà, parce que là, si on s'embarque.
Mais alors, si vous êtes quand même, si vous voulez quand même des sensations fortes au niveau de la collision Andromède contre Voie lactée, il va quand même se passer un truc, c'est qu'il y a des trous noirs. Donc, il y a le trou noir central d'Andromède, il va tout balayer sur son passage, et il va capter, c'est sûr, toutes les étoiles, et c'est sûr qu'il vaut mieux pas qu'on se trouve sur son chemin à ce moment-là. Mais le trou noir fait partie de la vie normale d'une galaxie, et. Et là, on aura probablement les deux trous noirs qui vont fusionner, qui vont faire une coalescence, et qui vont probablement faire le même phénomène qui a été détecté par les ondes gravitationnelles il y a quelques semaines. Voilà.
Après, si ça peut vous rassurer, enfin, d'une certaine façon. Non, mais ça se passera dans 4-5 milliards d'années, donc le Soleil n'existera plus déjà à cette époque-là. Après, à supposer que le Soleil existe, on est déjà sur le bord de la galaxie, donc ce qui peut arriver, c'est qu'on soit éjecté de la galaxie. Donc voilà, on va se perdre quelque part, donc... Voilà. Donc on ne subira pas cette chose-là. Voilà.
Il pourrait se passer des choses marrantes aussi, comme on pourrait capter une autre étoile et former un système binaire comme Tatooine dans Star Wars.
Ouais.
Donc on deviendrait une Tatooine, on orbiterait, on aurait deux couchers de soleil et deux levées de soleil tous les jours.
Bien maître. Voilà. Sachant que Tatooine a été identifiée, hein, il me semble qu'il y a une exoplanète qu'on avait baptisée comme ça, parce qu'elle tournait autour d'une étoile double.
C'est rentré maintenant dans l'usage des astronomes de parler des systèmes Tatooine.
Voilà. Ouais. Pour les amateurs de Star Wars, que je... Voilà.
Et n'hésitez pas, moi je vais rester encore un peu ici, là, jusqu'à ce que ça ferme l'espace Mendès
France.
Oui, c'est
ça, mais je crois que justement,
vous pouvez
mes collègues qui vont...
discuter, si vous voulez.
Voilà, qui étaient prévus jusqu'à à peu près 10h30. Donc on va peut-être arrêter là. Mais j'essaierai de faire de prochains rendez-vous sur la matière noire, soit pour l'automne prochain ou soit au printemps prochain. Hein. D'ici là, donc, j'ai quelques rendez-vous annoncés. Donc très prochainement, donc le 2 avril, c'est un samedi, il y aura ici donc à Mendès France un regroupement en fait, entre différents clubs de la région, des départements voisins. Qui viendront donc à la fois écouter des conférences donc d'astrophysiciens, mais aussi présenter des choses qu'ils font dans les clubs. Et donc, pour balayer rapidement un programme, donc, il y aura une conférence tout d'abord le matin à 11h sur l'astrophotographie et comment prendre des photos du ciel. Hein. Il y aura une exposition de météorites, alors quelques exemplaires, hein, parce que ce n'est pas évident à déplacer. Non pas que c'est lourd, mais c'est des conditions particulières. Il y aura donc justement un sujet sur l'impact de Rochechouart et un projet en fait national autour de la surveillance des météores qui tombent sur Terre avec un réseau en fait de surveillance du ciel et tout ce qui tombe sur Terre, ben, il va être identifié, repéré, mesuré. Il y aura des présentations de travaux aussi de détection d'exoplanètes par des amateurs, de détection de nébuleuses planétaires. On parlera aussi du passage prochainement non pas Vénus, mais Mercure qui passe devant le Soleil. Ça se produira le 9 mai prochain. Donc à cette occasion, il y aura des lieux de rendez-vous pour observer. Donc justement, là, le 2 avril, on fera un petit peu le point sur où on peut observer ça, sachant qu'on peut l'observer partout. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. D'abord, un, c'est regarder le Soleil. Deux, même si on met des lunettes spéciales éclipses, en fait, Mercure est trop petite pour être visible. Donc, il faut absolument observer avec un télescope équipé de filtres. Hein, j'insiste un petit peu sur la notion de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vraiment vous rendre sur les lieux d'observation. Ils seront gratuits. Et on fera aussi le point, le 2, sur quoi d'autre, je ne sais plus. Mais le soir, il y aura une conférence d'Agnès Sacker de l'Université de Strasbourg sur les couleurs du ciel et ce que peut apporter en fait en information ces couleurs-là. Voilà. Donc c'est un rendez-vous d'échange, de partage donc entre les clubs amateurs professionnels et amateurs et grand public. Hein. Donc n'hésitez pas à venir hein, si vous avez l'occasion. Donc après dans les rendez-vous, c'était une petite conversation qu'on a eu en aparté juste avant la séance, avant la conférence, sur les stages étoiles. Donc on m'a demandé de présenter rapidement ces stages étoiles. C'est des stages de formation qui sont proposés ici et puis aussi dans différents centres en France pour découvrir le ciel de façon autonome avec différents niveaux. Premier niveau, ben, c'est pour découvrir le ciel par soi-même au niveau des repérages des constellations. Et le deuxième niveau, c'est d'aller un peu plus loin dans la mécanique céleste et dans l'étude spectrale. Enfin, on aborde légèrement, mais vers comment on peut décoder la lumière des étoiles. Voilà. Donc, c'est des stages qui sont proposés certains samedis au cours de l'année qu'on retrouve dans la plaquette. Voilà. Bien. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis, il y a des rendez-vous à Châtellerault au niveau des conférences avec le poisson de Higgs, là, prochainement. Hein, donc, à surveiller dans la plaquette. Bien, merci encore d'être venu. Merci à vous d'être là. Et puis, si vous voulez avoir des infos sur les prochaines conférences à venir, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message à ma messagerie et je vous inscrirai en fait à une liste de diffusion. Alors, vous inquiétez pas, j'en envoie un message tous les mois ou tous les deux mois. Hein, je vais pas vous harceler, mais ça permet de voilà d'avertir qu'il y a une conférence qui se passe ici ou ailleurs. Hein, voilà. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Bien. Donc on va se quitter là et puis à une prochaine fois, peut-être sur l'énergie noire ou la matière noire, hein, on essaiera.